Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ah, vous les adorez les BCG. Je ne suis pas un BCBG, je ne le serai jamais. Je dois faire le beauf de service parce que vous aimez que les beaufs. Je suis pas aimé, c'est pas grave.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. L'after, comme tous les soirs jusqu'à minuit, l'after continue avec ce soir Daniel Riolo. Bonsoir Daniel.
Bonsoir les amis.
Ton retour, 4 jours de repos. Tu reviens frais, tu as suivi l'actualité en France, à Paris. Notamment au Parc des Princes aussi. On va en parler, bien sûr.
Je l'ai suivi depuis l'étranger. Hein.
Ouais, mais tu l'as suivi.
Ouais, tu sais, je vais te dire un truc. Dimanche.
Depuis que tu as retrouvé Twitter également.
C'est bien.
Bah, tu suis un petit peu les différents courants sur les réseaux. Ouais, voilà. D'accord.
Bah, tu vois, dimanche soir, en Italie, puisque c'est là-bas que j'étais, il y avait le gros match, le plus gros match de Serie A de l'année, hein, Inter-Juve. Et bah, il y avait Reims-OM. Donc j'étais dans un environnement où tout le monde ne voulait voir que Inter-Juve. Et ben, donc j'avais l'écran principal et j'ai regardé Reims-OM. Et ben honnêtement, Reims-OM c'était mieux. Alors que l'Inter, c'est une équipe qui est en quart de finale de Ligue des Champions, la Juve est en quart de l'Europa League. Le niveau de ce match était vraiment pas terrible. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui l'ont vu. Mais le Reims-OM était plus intéressant à suivre. Je pensais jamais devoir dire ça un jour.
Oui, mais c'est un truc qu'on dit depuis quelques mois maintenant aussi sur ce frémissement qui se confirme.
Ouais,
en Ligue 1, des entraîneurs avec des idées.
Ouais, attention parce qu'après
une nouvelle intensité
ne se confirme pas et notre championnat va très mal puisque l'équipe leader et l'équipe qui doit être la locomotive est en train de s'écrouler et le club avec.
On va en parler.
Et les droits télé de l'automne prochain m'inquiètent profondément.
Tout à fait. Voilà. Pas que toi, Vincent Labrune également. Bonsoir Thibault Leplat.
Camarade, bonsoir.
Qui nous accompagne cette semaine dans l'after jusqu'à minuit. Au programme, évidemment, le Paris Saint-Germain. Tiens, une thématique, la République des joueurs. Est-elle en train de s'imposer à Paris? On a des infos à vous donner. On a bossé, on sait notamment, on peut vous dire que Messi a quitté prématurément un entraînement. Pourquoi? Et pas parce qu'il était blessé.
Ça, c'est la semaine dernière, ça.
Oui, mais ce n'était pas confirmé encore. Non, on va en parler encore une fois. On va parler de Luis Campos également, dont le poids est renforcé, devrait être renforcé la saison prochaine à Celta Vigo. Peut-il encore avoir de casquettes, cet homme-là? On a passé des coups de fil à des confrères espagnols qui nous donnent ces informations-là. On parlera également, ce soir du capitaine en équipe de France, Kylian Mbappé, capitaine, décision de Deschamps. Était-ce un choix évident? Avait-il réellement le choix? Le sélectionneur, plutôt que Griezmann. On en fera un débat, vous nous appelez au 32-16. Et puis tiens, également, un invité ce soir, Christian Gourcuff, à 23h avec nous. Il sort un livre, Retirer les terrains depuis maintenant quasiment 3 ans. Il ne regrette pas d'avoir quitté le football d'aujourd'hui. Il nous dira pourquoi. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas Paulo Breitner à nos côtés. Il est un peu sur la même ligne que
Christian Gourcuff. On a Daniel.
Ici. C'est pas tout à fait la même ligne, je pense pas. Et puis également, Julien Laurent sera avec nous en fin d'after, deadline à 22h, donc il y a une heure à peu près, depuis trois minutes, les dossiers pour le rachat de Manchester United ont été déposés. Julien Laurent nous dira, on connaît les dossiers, il y a le dossier Radcliffe et le dossier Qatari, il nous dira quelles seront les étapes suivantes et qui va envoyer du très très lourd. Et puis les infos à venir du jour également en fin d'after. C'est parti pour l'after, vous nous appelez au 32-16, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio pour envoyer vos commentaires. Et on commence par le PSG. Alors, nos infos Paris, je vous le disais à l'instant, Fabrice Hawkins qui a bossé, il bosse au quotidien, notre reporter RMC Sport sur l'ambiance au camp des loges. Il nous dit en clair que Messi fait bien ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas d'autorité. Voilà, ça on le savait, on le dit régulièrement dans l'after.
Jusque-là.
Exemple à l'appui, il avait bien arrêté récemment un entraînement, mais parce que Galtier avait laissé le choix aux joueurs, notamment. Il avait dit, bon les gars, on a quasiment fini, on va faire ça. Si vous voulez vous arrêter, vous pouvez vous arrêter.
C'est ce qu'on fait en CP, qu'on va demander aux enfants s'ils préfèrent faire des maths ou préfèrent faire de la...
Ou alors en fin d'année, tu te rappelles à l'école primaire, les jeux de société, tu pouvais amener ou pas, ou travailler, t'avais le choix.
Tu les radio et les ramener de chez toi, c'était bien.
C'est bien. Hein. Et donc pour finir les gars, Messi dit, bah, à ce moment-là, moi j'arrête, je rentre au vestiaire. Il embarque avec lui, en tout cas tout le monde emboîte son pas. Même ceux qui auraient aimé continuer la séance. Autre séance mardi dernier, effectivement il avait aussi quitté l'entraînement pour... Selon Galtier, une gêne à l'adducteur. Selon des témoins de la scène, très proches, des gens qui étaient sur le terrain, pour être très clair,
C'est aussi parce que Messi était agacé par un exercice dont il ne voyait absolument pas l'utilité pour les attaquants. Voilà aussi pourquoi il a quitté la séance. Voilà. C'est une confirmation de ce qui se disait le week-end dernier, qu'on confirme réellement ce soir, pour dire que Messi, effectivement, devant son entraîneur, décide bien de mener comme il le veut ses fins de séance au camp des loges.
On avait eu l'épisode du carton jaune.
Oui, c'est vrai.
Ou jour de repos pas donné comme il fallait, ou en tout cas réclamé par les joueurs et finalement évidemment obtenu, avec menace en rigolant de mettre un carton jaune à l'entraîneur. Bon, voilà. Mais en fait,
il y a l'épisode gilet jaune aussi, vous rappelez ça ?
Ça n'a jamais été autrement depuis Laurent Blanc. Ce sont les joueurs qui décident. Alors quand les joueurs sont assez forts et ont à leur tête, à l'époque de Blanc, des gens comme Ibrahimovic, Thiago Motta, Maxwell, eh bien ça tourne, parce que ces joueurs-là ont envie que le club aille dans le bon sens. Il y avait Thiago Silva aussi, il y avait un degré de professionnalisme à l'époque que tu n'as pas aujourd'hui. C'est pour ça que quand on me dit ouais, Blanc c'était l'entraîneur avec le jeu et tout, mais absolument pas. Blanc, on a eu 1000 épisodes de l'épisode Aurier à l'épisode d'une tactique alambiquée sortie du chapeau au dernier 3-5-2, moment, hein. Au retour des vacances en retard, et on s'en souvient, sanction pour Cavani. Enfin, la République des joueurs, elle a toujours existé dans ce PSG là. Encore une fois, ça ne dépendait que du bon vouloir des joueurs et de leur professionnalisme, que ça aille dans le bon sens. Quand Emery est arrivé à la suite donc de Blanc, je rappelle quand même qu'il venait pour autorité Grinta. Élément Grinta, très important. Parce que Espagne, machin, ces campagnes européennes, Ligue Europa, là. Je me souviens très bien de ce qu'il a proposé aux premiers entraînements.
3 victoires en Ligue Europa, quand même.
Ils ont été refusés immédiatement, notamment un positionnement pour Verratti un petit peu plus haut, un jeu plus rapide en verticalité. Les joueurs, comme ils étaient habitués à fonctionner depuis 3 ans avec Blanc, ont complètement refusé ce jeu-là. Alors que sur certains matchs, dans la période Emery, c'est peut-être le meilleur jeu du PSG qu'on ait eu, comme avec Tourelle un petit peu plus tard, qui lui aussi faisait un petit peu la même chose. Tourelle, pareil.
Il était venu pour l'autorité, la discipline également.
Tourelle, il arrive. Je me souviens, les caricatures qu'on entendait, grotesques sur... évidemment, c'est un Allemand. Oh, Allemand, discipline, il a marché à la Schlag. Mais c'était ça, les caricatures.
Discipline, rigueur, autorité.
On entendait, il faut un Allemand. Alors, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait ?
Même si c'est le pays du romantisme.
Et en même temps, il est arrivé, il n'a pas fait autorité, machin. Il faisait des câlins. Rappelez-vous, c'est la période câlinothérapie. Neymar, je te dis des mots doux dans l'oreille, machin. Encore une fois, il a fallu câliner les joueurs pour que pendant quelques temps, ils lui rendent quelque chose. Et puis, au fil du temps, c'est parti dans tous les sens également. Voilà, je veux pas continuer.
T'es en train de déresponsabiliser Galtier, finalement. C'est pas de sa faute.
La particularité de ce cas-là, c'est que ça sorte par l'entourage.
Plus que l'entourage.
Ouais. C'est-à-dire, ça sort sur des sources très fiables. À ce moment-là, à un moment où les joueurs sont questionnés très vivement que le pauvre Galtier, parce que je vais dire le pauvre Galtier,
c'est une victime, hein.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a le portrait robot, le portrait type de la victime expiatoire. Donc on va charger Galtier, on va dire que c'est à cause de ses entraînements, que c'est pas assez intense, que Messi n'est pas content.
Comme on a chargé Tourelle avant, Emery aussi, c'est un exercice tous les prédécesseurs.
Voilà, il a dû essayer de faire comprendre à Léo qu'il fallait qu'il défende. Bon, Léo, le pauvre Messi, après avoir fait le Barça et les entraînements du Barça, je pense qu'effectivement, l'exercice défensif, ça a dû le gonfler un peu. Il a dû prendre ça comme une provocation. Il est parti. Voilà, c'est la République des joueurs, mais c'est plus que la République des joueurs, parce que la République des joueurs, ça signifierait donc qu'il y a un gouvernement rationnel établi entre eux.
Et ça ne
c'est
voudrait,
la tyrannie
et
de certains joueurs.
Et ça ne voudrait pas forcément dire République des joueurs, non. Que les mecs ne travaillent pas dans le bon sens.
Voilà,
ils pourraient monter une République.
Exactement, ça, c'est une autogestion.
Une autogestion, voilà. Contre un entraîneur avec qui ils ne seraient pas d'accord, mais ils pourraient bien jouer. Sauf que là, on dit République des joueurs, c'est un peu une formule. Mais c'est plutôt la débandade des joueurs, c'est la chienlit. Et un entraîneur, où tu disais, t'es un petit peu en train de dédouaner Galtier, pas complètement, parce que ça n'est jamais allé aussi vite. Ça ne s'est jamais désagrégé aussi vite. Et jamais un entraîneur a montré autant de lacunes dans le travail. Alors évidemment, on a les blessés, ça c'est comme tous les ans, mais ça, le staff médical, à force de changer sans arrêt... Y a rien de pire que de changer sans arrêt un staff médical dans un club, hein, parce que tous les protocoles changent et les mecs se blessent. Là, je vous annonce que pour la fin de saison, Là ça va tomber là, hein, parce que entre la démobilisation, les mecs qui vont arrêter de s'entraîner, là les deux semaines de voyage là, enfin de voyage, de types qui vont partir loin, je t'annonce que là les blessés ça va s'enchaîner. Verratti, je lui donne pas beaucoup de temps avant d'être blessé, parce que vu qu'il a autant pendant un moment il s'était un petit peu calmé, mais alors là c'est reparti, c'est fiesta à gogo là. Je pourrais même donner l'établissement, tout ça, mais enfin. Tu veux savoir, oui.
L'établissement pas nécessaire, mais tu peux non, dire.
L'anecdote, c'était tous les autres.
Non, mais ça, il envoie. C'est ça, bah, ça.
Non, mais c'est Thibaut, à ce propos ouais. également, ce que nous apprend.
Je sais pas
si vous savez également, mais ce que nous dit Fabrice Hawkins, là, en 2022, Real PSG, 8e de finale retour. Donc, on connaît l'histoire, le PSG est éliminé. Les joueurs du PSG avaient prévu une soirée à Madrid, dans la foulée de la rencontre, qu'ils ont voulu maintenir. Malgré la défaite et malgré l'élimination, certains ont voulu rester sur place. Il a fallu l'intervention de Nasser, voilà, épreuve d'autorité, pour les obliger à monter dans l'avion et rentrer à Paris. Ouais. Un exemple, hein, c'est pas pour dire que c'est pas du fait de Galtier, évidemment.
Non, mais
c'est quelque chose. Et tu l'as dit, Galtier,
en fait, il faut
c'est quelque chose de conjoncturel, de profond, quoi, de structurel.
Après la défaite contre Rennes, Verratti, ça l'a pas empêché d'aller faire la fête, voilà, et de s'en mettre plein le cornet, quoi.
C'est...
Et tout le monde, et au vu de tous, tu vois, c'est pas des choses qui restent secrètes dans ce genre d'établissement. Il y a des gens qui les voient, des gens qui parlent, des gens qui envoient des photos. Tu vois, c'est faut arrêter les mecs. À un moment, ils avaient le truc, notamment Matignon, c'est de faire en sorte et de demander avec autorité à l'établissement qu'on laisse, que tous les clients, s'ils devaient être là, laissent les téléphones à l'entrée. Ça s'est fait.
Ce que fait Neymar pour ses anniversaires et autres.
Ouais, Neymar, il fait ça quand il fait ça chez lui à Bougival. Mais là, maintenant, il s'en fout tellement que. C'est tranquille, ça passe.
Non, et puis ils sont à travers le personnage de Galtier, qui est déjà au départ un mauvais choix depuis le début. Il a la tête du coupable idéal, quoi. Donc effectivement, on peut pas l'exempter de responsabilité, parce que je pense qu'il avait pas du tout le profil, il avait pas du tout le charisme, la légitimité pour être à la tête de cette équipe-là.
Il est toujours là, Galtier, je précise pour ceux qui
doivent. On en parle déjà au passé, parce qu'il
est toujours resté du Paris Saint-Germain, les gars.
La question, c'est est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de saison.
Il a cru à certains joueurs. Évidemment, Neymar l'a trahi comme il trahit tout le monde. Avec la fameuse phrase, toi tu crois en moi, je vais tout te rendre cette année, on va gagner le championnat, la Ligue des Champions et tout. Neymar a dit ça, hein,
ouais, à Galtier, hein,
au mois d'août là. Hein. Ouais. Neymar lui a fait une sorte de promesse, ouais, je vais être béton cette année, et il a fait la même chose à Campos, hein, Neymar, au Japon, hein, pendant les fameux 4 jours qu'ils ont passé là-bas.
Il est capable de dire ce que ses interlocuteurs veulent entendre. Donc il sait très bien qu'ils veulent entendre ça, donc il leur donne ça. C'est un très bon commercial. C'est la qualité aussi de l'escroc, hein. Dans ce sens-là, l'escroc, c'est celui-là, c'est celui qui va te dire les choses que tu veux entendre. Les gens qui se sont fait avoir par téléphone sur des arnaques, c'est ça. Ça m'est arrivé.
Pas qu'au téléphone, dans la vie parfois.
Tu peux en parler. C'est précisément ces gens-là. T'as envie de croire ce qu'on te dit. T'as envie de croire que Neymar, oui, il va enfin se mobiliser pour le PSG. Et lui, il le sait, ça. Oui. Il le connaît très bien. Donc voilà, c'est pour moi plus qu'une république, c'est une tyrannie, un despotisme des joueurs. C'est-à-dire vraiment, on obéit aux humeurs des joueurs comme si c'était des enfants.
Et les trois prochains matchs, Nice, Lens dans le désordre et Lyon. Je les ai
donnés
dans le désordre.
Lyon d'abord. Oui.
Ouais. Que le PSG en perde 2-3, ouais, ça ne m'étonnerait pas. Et je pense qu'après, ça peut dépendre de l'OM et de ses dérapages parfois incontrôlés.
Ouais.
Comme tu penses encore jouer à l'abri
d'une
dernière
journée. C'est pas
enterriné. Écoute.
Ah bon?
Écoute. Je pense que limite, ça dépend plus de l'OM. Regarde les 10 derniers matchs de l'OM. S'ils arrivent.
Le calendrier est plus dur pour Marseille que pour Paris.
S'ils arrivent à en gagner 8-10, je pense que l'OM sera pas très loin. Écoute bien.
Montpellier. Marseille-Montpellier. Lorient-Marseille.
Moi, je dis 8-10. S'ils arrivent à en gagner 8-10, après, évidemment, s'ils refont des matchs contre Strasbourg, tu mènes 2-0, c'est dans la poche, et tu te fais reprendre.
Mais c'est aussi Marseille.
Ça. Mais parce que Paris, c'est qu'ils en perdent 2 sur les 3 qui arrivent, ça ne m'étonnerait pas. Dans la foulée, ils vont jouer plein d'équipes un peu bas de tableau.
Et Lens, il y a combien de différences?
Et je te dis qu'il y a un paquet de joueurs qui vont être blessés, un paquet de joueurs qui vont plus du tout être mobilisés. Attention,
bon,
attention.
J'y crois pas trop, mais bon.
C'est vrai que Marseille, pas dit que j'y croyais.
Faudrait que je fasse 24 points, 8 victoires, c'est 24 points, que Paris en prenne 17 sur 30 possibles. Il y aurait beaucoup de défaites parisiennes dans le lot. Mais pourquoi pas? Écoute, on va en parler dans un instant. On vous attend au 32-16 également. Je veux qu'on parle encore de Christophe Galtier. Tu as dit cette phrase à l'instant, Thibaut, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de la saison? Toi, hier dans l'after, tu as affirmé que José Mourinho peut-être l'homme idoine au Paris Saint-Germain.
Mais je ne comprends pas pourquoi Thibaut a dit ça. J'arrive pas, j'ai beau l'écouter.
Thibaut peut te décevoir aussi, c'était pas d'accord avec lui.
J'arrive pas à comprendre pourquoi.
Voilà. Oui, très bien.
Pourquoi?
Vous avez des avis divergents aussi, les gars, parfois.
Parce que comme c'est plus.
Attends, on la pause, on fera après.
On revient dans un instant. Du timing.
Allez, c'est la chauffe là. L'after, 22h15, Daniel Riolo, Thibault Leplat. On parle du PSG encore. Je vous rappelle qu'on sera avec Christian Gourcuff à 23h. On parle de Campos également dans un instant. N'hésitez pas. Et puis Buffon a parlé. Il a adoré. Meilleure période de sa vie à Paris. Je vous lirai quelques déclats.
J'ai vu la séquence et tout quand il s'embrouille au sujet de Verratti avec Cassano. C'est extraordinaire.
Philippe Lam a parlé de Verratti aussi. Bah, reste avec nous.
C'est... Ah, il l'a déboîté.
Voilà, l'after écoute, jusqu'à minuit avec Daniel et Thibault.
Les gens finissent par ouvrir les
yeux. Sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after, 22h18 sur RMC avec Daniel Riolo et Thibault Leplat. Vous nous appelez au 32-16. On poursuit sur le Paris Saint-Germain. Les infos, vous pouvez trouver, que je vous ai lu à l'instant, sur le site rmcsport.fr également. Alors, la suite de la saison, on a commencé à en parler avec vous, messieurs, Daniel et Thibault. Thibault, toi, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que Paris peut encore lâcher le titre cette saison?
Ah oui, moi je pense que tout est possible.
Je connais bien ce club, tout est possible.
Donc 7 points c'est très peu dans un contexte comme celui-là. Si peut-être rendez-vous dans 3 matchs, comme dirait j'ai vu qu'il avait dit ça même sur l'autre jour.
Rendez-vous en terrain inconnu.
Rendez-vous dans 3 matchs parce que c'est possible, c'est parfaitement possible. Dans ce club, tout est possible, y compris parce que tu perds pas simplement dans ce club. Tu perds avec panache, tu perds avec gloire, quoi. Tu perds avec une certaine idée esthétique de la loose, quoi.
Voilà, c'est un gadin monumental.
C'est toujours, on est à la limite du scandale à chaque fois. Ça peut pas juste être une défaite.
Ce qui n'est pas réellement arrivé quand Paris avait de l'avance à Dijon et de la fin.
Ce qui n'est encore
Paris ne s'est jamais vautré sur les 10 derniers matchs.
C'est justement parce que c'est jamais arrivé.
Il faut le titre acquis. Voilà. Lille, par exemple, face au PSG.
C'est justement parce que c'est jamais arrivé que là, on se dit qu'il y a quand même tous les éléments. Il y a toutes les, tu sais, comme dans les scénarios Netflix, tu sais, t'as les tensions, les premières séries, t'as les personnages qui s'instaurent, etc. On avait parlé ça au début de saison.
Et là, t'as vraiment plus personne. Attention au nombre de blessés. Hein.
T'as la victime expiatoire, t'as le gentil, le méchant, t'as le défi qui semble facile à faire.
T'as les jeunes qui peuvent te sauver mais qui sont tapés dessus après chaque match. Beaucoup de choses.
Il manque une étincelle.
Bon. Et Bruno nous dit sur Direct Studio justement si Galtier reste, hein, bien sûr que le titre peut être perdu. J'accueille Fabien au 32-16, supporter du PSG, ultra du PSG d'ailleurs. Salut Fabien.
Salut toute l'équipe.
Alors justement avec toi on va évoquer un volet qui a déjà été évoqué hier soir, ce week-end, après la défaite du PSG au Parc des Princes, l'absence de réaction hostile. Je dis pas que je les souhaite, hein, ils ont fait la promotion des ultras du Paris Saint-Germain. T'es un ultra donc Fabien, t'étais au stade dimanche?
Non, je vais plus au stade depuis 2015.
D'accord, pourquoi?
Ben parce que malheureusement les groupes d'ultras, les vrais, sont partis quoi du parc. Enfin, ont été remerciés.
Et ça, c'est une réalité qu'on dit trop peu. Il y a une vraie remise en question. Beaucoup, j'ai reçu énormément de messages ces derniers jours sur la réalité des groupes ultra au Parc des Princes, sur le fait que beaucoup ont arrêté d'y aller, que beaucoup revendent leur place parce qu'ils sont résignés, abattus, qu'il y a de plus en plus de touristes, même en tribune Auteuil. Honnêtement, je savais pas tout de ce contexte-là, ça rend la situation encore plus inquiétante.
Bah après, le pire, c'est qu'ils ont voulu lisser vraiment les tribunes, ils ont voulu lisser l'image du club, mais derrière, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un quoi, qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien. Quoi.
Bon. Mais toi, tu appartenais à quel groupe?
Moi, j'étais dans le virage Auteuil.
Et tu faisais partie d'une assoce ou t'étais juste comme ça
indépendant,
hein, indépendant entrant dans la
famille? Non, moi j'étais indépendant. On avait un groupe, on était une quinzaine. Du coup, on s'est mis avec le virage Auteuil.
D'accord. Et à quel moment t'as noté qu'il y avait une évolution? C'est dans le rapport au club, dans le rapport avec la direction?
Bah, c'est dans le rapport avec la direction, ce qu'on avait eu en fait les groupes d'ultra versus des documents suite au rachat. Donc c'était la première année, il n'y a rien eu. C'est en 2013-2014. Qu'on a commencé à avoir des communiqués. Mmh. Où justement, en fait, le PSG expliquait que, il y avait certaines choses qu'il fallait plus faire, il y avait certains tifos, certaines banderoles à plus faire, enfin, vraiment un lissage vraiment des tribunes dans le sens où il fallait plus aller à l'encontre du club, il fallait plus aller à l'encontre de l'image de Paris.
Mais ça, alors, si tu veux, évidemment, là, ça éclate au grand jour et ce qui se passe en ce moment l'a montré, mais L'année dernière, après la défaite contre le Real, on a vu ce qui s'est passé sur la fin de saison. Il y a quand même eu une grève qui a été assez forte, qui a entraîné.
On se souvient du PSG Bordeaux,
qui a entraîné une vraie brouille entre une incompréhension entre certains joueurs et le CUP. Pour le coup, à ce moment-là, j'ai cru, en tout cas, j'ai vu un virage Auteuil complètement. En phase avec ce que pensait la majorité des supporters parisiens, dans la contestation, dans le fait de faire grève, de ne pas fêter le titre, de ne pas être répondre présent au moment d'un match contre l'OM quand même. Donc je trouve qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu de la vie, quoi. On a senti qu'il y avait encore un vrai soutien. Là aujourd'hui, il y a eu ces dernières semaines, si on met bout à bout, l'idée que le PSG pourrait ne plus jouer au Parc des Princes. À une autre époque, c'était scandale, ouais, banderole, le parc est à nous, le PSG,
2011, ouais,
le PSG, ça doit jouer au parc, mais ça aurait fait un bruit pas possible. Là, il y a évidemment aucun compte, fameux suiveur là, les lèche-bottes, évidemment, eux, rien du tout. Parmi dans les médias, très peu de bruit à ce sujet-là.
Tribune. C'est ça, en fait, c'est que.
Tribune, rien du tout. Les résultats catastrophiques, élimination, tu perds contre Rennes, du début à la fin, ça chante, pas une contestation. Mais, enfin, je connais le parc depuis que je suis môme. Mais c'est inadmissible. C'est un truc de fou, ce qui s'est passé samedi.
Vas-y, Fabien. C'est même pire que ça, parce qu'au final, on se fait marcher dessus. On a Lionel Messi qui nous crache à la gueule depuis plusieurs mois. Mm-hmm. Et au final, il y a rien qui est fait, quoi. Enfin, les mecs, ils viennent, ils voient Kim Kardashian, ils font des selfies, ils sont contents, ils ont payé leur place impeccable, ils ont vu une star américaine.
Et le pire, c'est d'entendre certains consultants continuer à dire, ah ouais, faut pas siffler Messi, Messi mérite pas la Ligue 1, machin, toutes ces conneries-là. Mais dans quel football on est? Qu'on interroge, honnêtement. Qu'on interroge. Alors, évidemment, les autres supporters qui sont pas PSG en France rigolent. Mais si tu les prends juste sérieusement, même un supporter de l'OM, tu lui dis, mets-toi à la place, ça va être dur pour lui, mets-toi à la place de supporter du PSG. Mais il devient fou.
Il n'en a rien à foutre que ce soit Messi.
Messi, la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre, rien à foutre. Bon, tu te comportes comme ça par rapport à ton club et par rapport aux supporters, mais tu peux être Dieu sur terre qu'on en a rien à cirer.
La chair est faible. N'importe quel club, tu vois bien, Newcastle, tu peux voir des clubs historiques. Newcastle, tous les supporters qui descendent dans la rue pour remercier MBS d'avoir acheté leur club.
Tant qu'ils ne se fourvoient pas et qu'ils ne vendent pas l'âme du club. Mais là, le PSG aujourd'hui est en train véritablement d'arriver à.
Le problème, c'est que c'est une conjonction de choses qui fait que le PSG est en train de se défaire de son territoire. Est en train de disparaître de son territoire. Le Saint-Germain a disparu du logo. Le maillot, maintenant je joue avec le maillot Dortmund en mon troisième maillot. L'hypothèse de pouvoir quitter le Parc des Princes ne fait plus autant de vagues qu'en 2011. On a Kim Kardashian qui vient, apparemment supportrice du PSG. Je sais pas quand. Sauf que Kim Kardashian, quand elle va à Bernabeu ou dans les hostels, elle fait pas des selfies avec Florentino Pérez, ou en tout cas la com du club le relaie pas. Ça fait pas partie de la com du club. C'est pas un titre, tu vois. C'est pas un titre de gloire.
Il y a un service au PSG qui contacte des boîtes d'agents, d'artistes, d'acteurs, de machin, et qui pour chaque match un peu recrute, parce que des fois ils n'arrivent pas à trouver des acteurs et des people pour qu'ils viennent au Parc des Princes et qu'ils soient visibles sur les photos. Des gens du spectacle et tout, regarde, je suis invité au Parc des Princes. On me dit limite, viens, quoi.
On a un club qui a un problème son territoire. Ses supporters, ce qui reste de supporters historiques. Donc, on a un club qui est en train de se vider de l'intérieur. C'est la stratégie du club. Bon. C'est l'internationalisation, augmenter les recettes. Donc, là, tu payes le prix d'un investissement fait un peu sans queue ni tête, mais qui en même temps est révélateur de ce qu'est le PSG maintenant. Et effectivement, quand tu vois que les supporters, finalement sifflent beaucoup moins que prévu, ils sont un peu à l'image des clubs, des joueurs qui sont un peu à l'image de la direction, où tout le monde est un peu pieds et poings liés avec QSI. Personne n'ose vraiment risquer sa place. Et tout le monde est là en train d'essayer de défendre, pas arriver à avoir une position claire, parce que t'as trop à perdre. Et tout le monde a beaucoup à perdre dans cette histoire. Et ce qui fait que tout le monde est dans ses petits souliers, que ce soit de la mairie de Paris, en passant par les supporters du CUP, les consultants, les joueurs et maintenant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, dont on vient parler de Christophe Galtier, qui n'a pas dit un mot sur Ney et Léo, si ce n'est pour les complimenter, il est exactement dans la même situation dans laquelle se trouvent les supporters historiques aussi. Je pense que tout le monde est pieds et poings liés là dans cette histoire.
Alors, nous, on avait réussi à contacter des membres du CUP, hein, qui nous avaient dit, la question pourquoi vous n'avez pas réagi dimanche au Parc des Princes, on prend l'Union sacrée jusqu'au 11e titre de champion de France du PSG. Oui. On veut ce nouveau titre, mais après la trêve, s'il y a d'autres contre-performances, cela sera dur. Voilà. Donc c'est peut-être qu'ils vont appuyer après l'obtention du 11e titre.
Nico, c'est toujours ce principe-là. Vous allez bientôt avoir une récompense. Il y a toujours ce petit gros lot qu'on agite devant, que fait QSI depuis le début, où on va toujours t'agiter en disant, ah oui, mais attention, il y a le 11e titre. Ah oui, mais attention, on va avoir un super mercato. Oui, mais attention, ça va changer. Et à chaque fois, le gros lot.
Ça s'appelle
le foulard rouge.
Ton gros lot.
Oui, des gros lots. Mais j'aime bien le côté gros lot, ça fait gling gling. Tu vois, c'est vraiment, on reconnaît le son et ça fonctionne à chaque fois. Donc, peut-être qu'il y a un moment, il faut prendre un risque aussi, que ce soit de la partie. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais
toi, tu veux Mourinho, toi, c'est ça. On va en parler dans un instant. On fait une pause. Je remercie Fabien d'avoir fait le 32-16. Merci, Fabien.
Merci à vous, les gars.
Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Ciao. On va parler de Mourinho, bien sûr. Alors, il n'y a pas d'informations concrètes aujourd'hui sur Mourinho qui pourrait venir au PSG la saison prochaine. Il y a effectivement des rumeurs, des faisceaux d'indices. Bon, on sait qu'il est proche de Luis Campos également.
Des faisceaux de présomption.
Mais n'allons pas en faire une information aujourd'hui. Mais je veux quand même entendre Daniel, parce que c'est comme un sapin de mer, Mourinho. Ça fait quelques années qu'on en parle. Hein. Il serait le seul à pouvoir asseoir une réelle autorité dans un club qui n'arrive pas à discipliner ses stars. On en parle en débat dans un instant au 32-16. Tiens, Thomas Tourelle aussi, on va en parler également. Restez avec nous, c'est l'after avec Daniel Riolo, Thibaut Leplat sur RMC, 22h28. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, Thibault Leplat, RMC, 22h32. On parle du Paris Saint-Germain. On finit avec le PSG, messieurs. Tiens, avec encore une autre information que nous dit Fabrice Hawkins aussi concernant Thomas Tuchel. On nous confirme que le club l'a sondé et continue d'explorer la piste Thomas Tuchel. Mais Tuchel est échaudé par certains aspects de son premier passage à Paris. Il n'entend pas revenir dans ce contexte-là.
Je ne vois pas ce qui peut avoir changé par rapport à l'époque où il disait que c'était pas un entraîneur, que c'était pas du coaching de foot que tu faisais, mais de la politique. Il l'a dit, comme d'autres l'ont dit avant lui. Je ne vois pas ce qui peut lui faire croire que les choses vont changer. À moins qu'on agite le gros lot de la promesse que ça va changer.
En
fait, le problème, là où il y a un vrai pessimisme qui peut régner autour du PSG, c'est que quand on envisage la saison prochaine, peu importe le coach, tu dois récupérer. T'as vu le wagon de joueurs que tu dois récupérer qui sont à droite à gauche en prêt et qui sont mauvais? Va falloir les récupérer. Bon allez, on va me dire, si tu les as prêtés une fois, tu vas pouvoir les reprêter deux fois. Ok, pas sûr, parce que leurs prêts sont pas bien passés. Les prêts ont pas été bons et les mecs ne sont pas illustrés.
Notamment,
Il y a plein, il faut récupérer Kurzawa, des gardiens à droite à gauche. Enfin bon, bref, une catastrophe. Par ailleurs, t'as prolongé Neymar. Alors évidemment, on n'arrête pas de dire, il faut le virer, tout le monde veut le virer, tout ça. Ok, à part lui signer un chèque, c'est compliqué.
Ce sera le premier club de l'histoire du football qui va payer un chèque
pour partir.
Plus cher que pour l'entraîner.
Je sais pas combien il accepterait pour partir. Voilà. Donc, t'as Neymar prolongé, Verratti prolongé, Marquinhos prolongé. Qu'est-ce que tu fais avec ces mecs-là? Et de plus en plus, alors que je ne voulais pas y croire, que je pensais justement que le fait qu'on recule la prolongation, qu'on ait attendu, parce qu'on parlait beaucoup de la prolongation de Messi avant la Ligue des Champions. Je me suis dit, ils attendent la Ligue des Champions parce qu'au fond, ils ne veulent pas le prolonger. Campos n'a pas envie de le prolonger. Donc, ils ne le prolongeront pas. Or, de plus en plus, j'entends que réellement, à Doha, on veut le garder. Et là, c'est pas du pessimisme, quoi. C'est juste arrêter. Vous pouvez fermer là, le cube, c'est bon. Vous pouvez ranger les drapeaux, les banderoles, tout ce que vous voulez, c'est fini. Laissez les touristes venir au parc. Si Messi, Neymar sont encore là l'année prochaine, tu ne gagnes pas le titre. Tu ne seras pas champion. Ça, c'est sûr, certain. Là, autant l'été dernier, j'ai dit, la Ligue des Champions, c'est comme d'habitude, voire pire. Là, c'est carrément, tu ne seras pas champion si tu continues avec les mêmes mecs. Donc, c'est pour ça que parce que je ne vois pas comment tu peux te débarrasser de tous ces types-là. Tu ne peux pas refondre le vestiaire.
Et avec quel entraîneur, Daniel, également? Et avec quel entraîneur? Parce que je pense que tu es d'accord que Galtier, c'est terminé.
Mais si ça se trouve, il n'y aura personne. Et que...
C'est pour ça, d'où l'hypothèse Mourinho. Pas parce que, moi, je n'apprécie pas forcément le style de jeu, etc. Mais là, on est bien au-delà du football. C'est quelque chose qui a pas grand-chose à voir avec le football. Et c'est justement parce qu'on parle plus vraiment de football que Mourinho se présente comme un peu le personnage incontournable, je crois.
Ah, pourquoi? Non.
Parce que, un, il va permettre pour les Qataris de s'en sortir par le haut. C'est-à-dire à signer un entraîneur prestigieux qui est bankable, qui a la classe, qui parle français, etc. En même temps, il va permettre de lui, dans sa carrière, qu'il est plutôt sur la pente descendante, Mourinho, revenir au PSG, ça lui fait revenir dans le game, de revenir dans les gros clubs, revenir sur le premier plan de la scène européenne. Donc là, il y a un intérêt commun. Et ensuite, la question, c'est de savoir quel va être le deal. Est-ce que Mourinho, s'il vient, qu'est-ce qu'il va demander en échange? Certainement le départ de Neymar et de Messi. Il est capable de foutre le feu au club.
Et oui, mais c'est
pour ça.
Ce que les Qataris n'aiment pas, ils n'ont jamais fait le choix d'un homme très fort.
Sauf qu'il est en position de force pour négocier là, maintenant. C'est pour ça que la rumeur fuite maintenant. C'est parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que c'est maintenant en négociation. Est-ce que si j'y vais, est-ce que j'ai le droit de un droit de regard sur les départs? Et en particulier sur les départs de Neymar et Messi. Mais ça, il l'a toujours fait. Dans tous les clubs, il a toujours fait ça. Et c'est un type qui a une vision assez précise du vestiaire qu'il veut. Moi, je dis pas du tout que c'est l'entraîneur avant-gardiste qu'il était il y a 20 ans, etc. Pas du tout. Il est un peu dépassé sur certains sujets. Évidemment, si je dirige un club rationnel, je prends pas Mourinho. En revanche, si je dirige un club complètement irrationnel, un club qui ne fait que dépenser à tort à travers pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le football, j'ai besoin d'un type qui n'a plus grand chose à voir avec le football et qui est le seul entraîneur capable maintenant d'avoir ses propres réseaux aussi, parce que c'est un type qui a beaucoup de réseaux, d'influencer le club par ses réseaux à lui. La preuve, on est en train d'en parler, c'est des rumeurs qui n'ont pas du club.
Ses réseaux à lui, déjà beaucoup au club en ce moment, donc
oui, il y en a en plus des, oui, mais même dans les médias, même nous, enfin c'est quelqu'un qui a quand même bonne presse, on en parle beaucoup, voilà. Donc c'est quelqu'un qui à mon sens, d'un point de vue stratégique, et la bonne personne si tu veux faire une sorte de révolution en douceur, si je puis dire. Après, si tu veux tout mettre par terre, virer tout le monde et tout recommencer à zéro, c'est pas la bonne personne. Il vaut mieux prendre Tuchel pour faire ça. Mais pour, il a fait au Real, hein, quand il arrive en 2009 ou 2010,
il fait le ménage.
Ouais. Il fait le ménage, et c'est lui qui fait venir Varane, c'est lui qui fait venir Ozil, c'est lui qui fait venir Modric les années d'après.
Le problème, c'est qu'on n'est plus du tout en 2010.
Oui, mais
il a perdu et l'énergie. Ouais. Vas-y.
Mais moi, je veux bien que le Real du 2010 maintenant, hein, ça me dérange pas.
Non, mais le problème, c'est qu'il a plus personne. C'est un gars qui est complètement fini. Et si tu prends ce qui s'est passé avant au Real, quand ils sont brouillés avec tout le monde, il n'y avait pas de problème parce qu'il avait une telle énergie que ça lui permettait de renverser pas mal de montagnes. Sauf que à partir du milieu des années 2010, il a perdu tout ça, tout ce fluide qu'il avait, tous ces gens qui le suivaient, parce qu'il a toujours agi un peu comme un gourou.
Il gagne deux coupes d'Europe.
Le problème, c'est pas de gagner. Le problème, c'est pas de gagner.
Bah, au Paris Saint-Germain, un peu quand même.
Mais non, je suis désolé. Emery, il avait gagné avant. Tuchel, il a gagné avant. Après,
tu peux pas comparer le palmarès d'Emery et le palmarès de Mourinho.
Mais la question aujourd'hui, c'est
la Ligue des Champions. C'est le seul entraîneur à avoir gagné toutes les coupes d'Europe.
Mais la question du PSG, c'est pas le palmarès, puisque tu as dit toi-même que c'est pas le foot qui t'intéressait et que ça n'était pas le palmarès.
Non, c'est pas ça.
Tu te contredis parce que tu viens de dire que c'est pas ça qui va t'intéresser.
C'est pas la seule chose. Mais c'est toi qui me parle de palmarès. Et sur le palmarès, je te réponds. Je te dis que sur le palmarès, tu peux pas le comparer aux autres. C'est
tout ça, c'est vieux. Tout ça, c'est vieux, le temps passe.
Et on en a eu des jeunes.
De l'énergie.
On a eu des jeunes.
Mais on en a eu des jeunes. Alors, je vais essayer de me faire comprendre.
Vas-y. Écoute.
Manchester United, Chelsea, tous les clubs où il est passé dernièrement, ça a été le feu. C'est le feu. Déjà que le PSG est en feu, si tu le prends, lui, mais d'abord, tout Mourinho qu'il est, il sera confronté aux mêmes merdes avec ce vestiaire-là. Et tu peux me dire, à partir du moment où ils s'en vont pas, me faire croire que parce que c'est Mourinho, il va dire à Neymar va sur le banc, Verratti va sur le banc, Marquinhos va sur le banc.
Bien sûr.
Ou alors il faudra qu'il le remette au travail.
Bien sûr.
Et il ne remettra pas au travail.
Comme il a fait
avec
Pogba.
En fait, tu vas faire des finis avec des finis. Non mais et Pogba, mais d'abord, l'embrouille, ça a plombé le club encore plus qu'il l'était. Et alors honnêtement, même quand il gagne l'Europa League avec Manchester United, d'abord, je ne crois pas que l'objectif du PSG ce soit de gagner l'Europa League. Et quand il la gagne, c'est une sorte de titre par défaut, parce que la place de Manchester United, c'est pas en Europa League, c'est en Ligue des Champions. Et là-dessus, il a rien fait. avec moi, Manchester United.
Ma question,
comme
c'est
il a rien fait
la
depuis,
question,
avec tous les clubs où il est passé récemment, à part mettre le feu, s'embrouiller avec tout le monde.
Si. La question, n'est pas de savoir si Mourinho est un grand entraîneur aujourd'hui, si c'est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle. C'est pas ça, ma question. Moi, si tu me demandes, c'est pas ma réponse. Ma réponse, c'est pas ça. Ma réponse, c'est Régis Le Bris.
La réponse, c'est que tu vas attendre. le football qu'il fait jouer à ses équipes.
La question,
catastrophique.
Demain, tu es Nasser El Khelaifi. Tu es aux manettes. Demain, quelle est la décision que tu dois prendre? Est-ce que quel est l'entraîneur?
Mais c'est ça la question. Vas-y, réponds, Daniel.
Non, mais t'oublies un truc essentiel.
T'oublies
un truc essentiel.
Si vous t'es posé la question, Daniel, il répond.
T'oublies un truc essentiel. Tu sais que même s'il vient, même s'il arrive à mettre l'autorité en place, même s'il arrive, bon, Neymar sera trop tard parce qu'il est cramé. Mais on va dire un mec comme Verratti.
Il est encore en contrat.
Le mec, je te fais t'entraîner. Je change les méthodes d'entraînement. Il y a plus de blessés. Les mecs sont opérationnels.
C'est son staff. Ça joue. Son adjoint.
C'est son staff et tout. Eh bien, avec son football, tu ne vas nulle part en Coupe d'Europe. C'est terminé. En Ligue des Champions, c'est fini. Son football, il est dépassé. Son football, il ne donne plus rien en Ligue des Champions.
Et il est en quart de finale quand même de
retour. Mais c'est plus le football qui est. C'est plus. Non, mais non, mais c'est pas. C'est pas le football de la Ligue des Champions. Il est dépassé.
Demain, si tu. Écoute,
il y a trop de conditions.
Je répète, si tu es Nasser, demain, tu es Nasser, qu'est-ce que tu vas vendre aux supporters? Tu vas vendre. Moi, même si je pense que ce n'est pas l'argument le plus intéressant.
Il n'est plus à la mode.
Tu vas vendre le palmarès, le type, un palmarès incroyable. Il va nous aider. Ça marche. Un bout de marketing, ça marche. Ça tient en un post Instagram, ça suffit, tu peux mettre une photo de Mourinho en costard avec sa montre, etc. Ça tient, ok, ça fonctionne. C'est pas ça l'argument principal, mais c'est l'argument marketing. L'argument principal est de savoir qu'est-ce que ce type a à perdre au Paris Saint-Germain. Rien, il a absolument rien à perdre. Pourquoi? Et le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a que des gens qui ont peur de perdre leur boulot, qui ont peur de perdre leurs millions, qui ont peur de perdre leurs followers, qui ont peur de perdre leur place au parc, qui ont peur de perdre leur abonnement.
Ah, là, on a un Mourinho, la seule chose qui ça va l'intéresser.
Mais il s'en fiche, il a déjà
gagné.
Ce qui l'intéresse, c'est d'être champion dans les 5 plus grands championnats. On peut trouver ça ridicule.
Et champion en Ligue 1, c'est important pour lui.
Depuis qu'il y a le Paris Saint-Germain, oui, évidemment. Écoute, ce qu'il avait dit, je suis retombé sur une déclaration.
Mais à l'époque, sur l'équipe.
Non, mais il déclare qu'il a eu sur Deschamps en 2021 sur l'Euro, où il parlait d'Mbappé. Il disait n'importe qui avec Mbappé dans son équipe est capable de gagner une équipe. Le réservoir français est tellement riche que c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné l'Euro en 2021. C'est ce qu'il dit sur l'Euro 2021 sur la gestion de Deschamps. J'imagine parfaitement Mourinho arriver au Paris Saint-Germain et construire une équipe autour de Kylian, avec Kylian qui sera ravi d'avoir un entraîneur enfin de haut niveau.
Mais avec le jeu qu'il va lui faire pratiquer,
il a fait ça avec Ronaldo.
Bon, pour l'instant, c'est pas une information encore une fois. Voilà.
Moi,
je précise.
Moi, c'est une piste.
C'est très clair.
Qui me fascinait.
Mais beaucoup, réclament Mourinho également.
Daniel,
tout le monde veut le père Fouettard.
Non, mais
c'est les choristes.
C'est un très mauvais raisonnement.
La proposition,
c'est fini. C'est pas du foot. C'est fini, Thibaut. C'est fini.
On va entraîner pour Daniel. On sait pas.
On va en parler dans un instant. On a encore quelques minutes sur le PSG. On va accueillir Thomas également au 32-16 et on parlera de Luis Campos également, son rapport au Celta Vigo. Reste avec nous. C'est l'after jusqu'à minuit avec Daniel et Thibaut. Tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Thibaut Leplat, avec Daniel Riolo, c'est l'after. Il est 22h45, on est sur RMC. Tout à l'heure, on aura Christian Gourcuff. On parlera également, on aura aussi Julien Laurence, qui nous donnera des nouvelles de Manchester United et du rachat. Depuis maintenant 45 minutes, les dossiers ont été déposés. Voilà. Il nous en dira plus sur les prochaines étapes de la vente éventuelle de Manchester United. Dans un instant, on va accueillir également un autre supporter du Paris Saint-Germain. Autre information que je voulais vous donner, messieurs, la double casquette de Campos va peut-être durer encore. Voilà. Quelques éléments d'abord qu'on a gratté en Espagne, avec Fred Hermel d'ailleurs, auprès des confrères qui bossent au quotidien sur le Celta. Je vous confirme donc qu'il n'est pas du tout sur le départ. Bien au contraire, on envisage en Galice de renforcer son poids parce que son bilan est positif depuis son arrivée il y a un an. C'était en mars 2022. Parce qu'il a choisi l'entraîneur et que ça se passe bien. Ils sont contents de lui. Le Celta est 10e de Liga aujourd'hui. On lui attribue également un bilan mercato très correct. Et on n'est pas du tout gêné à Vigo, évidemment, par la double casquette. Hein. Il est venu 4-5 fois depuis qu'il a pris la direction du recrutement, entre guillemets, même si c'est un rôle pas réellement officiel. Il n'est pas sous contrat avec le Celta Vigo. C'est un super conseiller recrutement du Celta.
Il est sous contrat au PSG?
Non plus.
C'est-à-dire qu'ils ont le directeur sportif du PSG.
C'est un électron libre, en fait, qui distille ses conseils.
Il distille ses conseils? Tu penses que c'est uniquement ça?
Non, pas que ça. Non.
Entre espèces sonnantes et trébuchantes.
Mais à un moment, le truc, c'est que quand dans le milieu, tu n'entends que tout le temps à son sujet, c'est monsieur 30%, bah, tu es obligé d'y croire à un moment.
En plus, ils sont
à partir du moment où ils refusent les contrats dans les clubs, c'est bien qu'il y a quelque chose en dessous. Ça veut dire qu'il travaille pour une agence, qu'il travaille pour lui, pour des sociétés qui sont
jeunes. Il a des employés.
Et que donc, il a des intérêts. Il a des intérêts à faire venir des joueurs ou à faire partir des joueurs. Moi, je suis désolé, je veux bien ne pas croire à ce qu'on raconte ou me dire les mecs qui te disent ça, ils ont pas forcément de preuves et tout. D'abord, c'est des gens sérieux qui le disent, mais deux, c'est pas normal.
Mais c'est pas lui le problème, sur les clubs qui l'embauchent, qui font travailler. C'est ça aussi.
En plus, le type du Celta,
c'est le Celta ou le PSG du Celta.
Comme le PSG, un club qui se veut d'une dimension internationale, peut avoir un directeur sportif qui ne travaille pas pour toi, qui est pas un salarié du club. Comment on peut accepter ça? Ça n'a pas de sens.
En plus, les types du Celta, ils sont ravis parce que comme ça, ils ont le directeur sportif du PSG au prix du Celta.
T'as raison. Ils se disent qu'ils pourraient en profiter également.
C'est un petit discours.
Quant à la venue éventuelle de joueurs.
Ils sont ravis. Ils sont ravis dans cette histoire. C'est qu'en plus, les types sont ravis.
Bon, on est là uniquement parce que c'est le bon vouloir de la famille Mbappé et que c'est pour ça qu'il est là, parce qu'on le voulait absolument et qu'il est venu avec son coach. Bah, regardez la situation du club aujourd'hui.
Non, mais il y a rien qui tient debout là.
Regarde, le club a jamais été dans une telle situation depuis 10 ans. C'est une des pires saisons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce choix qui a été imposé par un joueur. Parce que c'est le joueur qui a été découvert par lui, enfin qui l'a imposé en équipe première à Monaco. En faisant virer le mec qui était à la formation à l'époque.
C'est fait n'importe comment parce que je me mets très bien j'imagine très bien la réunion quoi. Je dis, bon alors c'est qui le meilleur directeur sportif du monde? C'est Luis Campos. La preuve, il a fait tant de millions à tel mercato. On va prendre Luis Campos. Sauf que Luis Campos, c'est pas un directeur sportif d'un club comme le Real, c'est comme le PSG.
Dimensionné comme le PSG.
C'est pas du tout le même travail d'être directeur sportif à Monaco, à Lille, qu'au Paris Saint-Germain. La preuve, c'est que tu recrutes, tu fais un mercato de Lillois pour un club comme le Paris Saint-Germain. Évidemment, quand t'as Fabien Ruiz au LOSC, c'est sympa, c'est un beau transfert. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, c'est pas exactement ça qu'on te demande. Donc, tu recrutes pas les bons profils au bon poste. C'est ce qu'il faut, c'est pas un Luis Campos.
Tu fais partir des mecs qui étaient meilleurs que ceux qui sont venus.
Voilà, et t'as pas besoin d'un Luis Campos, c'est pas le meilleur directeur sportif du monde qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est un vrai directeur sportif, c'est quelqu'un qui connaît le football et qui est capable de dépenser un peu d'argent.
Exactement.
Voilà. À la limite, il faut un banquier.
Il identifie les bons profils.
Il y a rien de plus facile que recruter au Paris Saint-Germain.
Tu mets de l'ordre dans le club, tout simplement. Tu fais respecter le club par les joueurs. Tu commences par ça. Voilà. Tu mets un entraîneur qui a des principes de jeu et.
D'ailleurs, t'as posé la question tout à l'heure, Thibaut, tu penses à qui? Là maintenant,
l'entraîneur idéal
au PSG pour succéder à Galtier.
Il y a deux profils, c'est si tu fais le ménage ou si tu fais pas le ménage. Et après, est-ce que le gars vient en.
Part du principe que le ménage sera pas fait, Daniel.
En ayant le droit de faire ce que tu veux. Entraîneurs, il y en a. Alors évidemment, le candidat idéal, a priori, c'est Zidane parce qu'il incarne les deux, le jeu, l'autorité, où tu te dis qu'il va réussir à imposer une vision, il va coller à la
dimension. Le jeu, réellement. Tu peux du plaisir à regarder le Real réellement
si,
ou pas?
Si, quand même. C'est
le recrutement, surtout.
C'est pas Deschamps, c'est pas.
C'est le management, surtout. Qui est bon.
Voilà, mais management et tout. C'est Colo Ancelotti, c'est un peu tradit, c'est bien. Et après, en Italie, il y a un ancien joueur du club qui est en train de monter très très fort, c'est Thiago Motta, qui a les faveurs en plus de la direction, parce qu'il est encore très proche des dirigeants et de Nasser notamment. Mais encore une fois, c'est, je pense, quelqu'un qui va devenir un très bon entraîneur.
C'est pas parce que t'as été l'entraîneur du mois de février que t'es un bon entraîneur.
Non,
t'es le meilleur entraîneur du monde.
C'est vraiment
un très bon entraîneur.
C'est quelqu'un qui sera amené à être un bon entraîneur.
C'est pas que le problème de compétences, ça. PSG. C'est pas que le problème de compétences sportives, là.
Je sais. C'est que tu viens pourquoi? À quelles conditions?
Bon. Donc est-ce que lui, il est capable d'assumer une parole forte, de s'opposer à la direction s'il le faut?
Dans ces cas-là,
j'en suis pas certain, moi.
Tu sais ce que tu fais? Tu le prends lui. Tu vas dire à Ibra, arrête ta carrière et viens faire le taulier comme tu faisais à l'époque.
Oui,
parce que lui en plus
le grand frère proche du vestiaire, il va recadrer tout le monde.
Tu prends Mourinho, t'as les deux en main.
Ibra va encore jouer au foot. Il a dit aujourd'hui qu'il était le passé, le présent, le futur.
Tu prends Maxwell qui a récupéré pas mal de joueurs via Mino Raiola à qui il était lié. Bon, tu fais un peu avec ceux de la bonne période du PSG.
Peut-être. Thomas est avec nous, 32-16, supporter du PSG. Salut Thomas.
Ouais,
bienvenue dans l'after, Thomas. Daniel et Thibaut sont à mes côtés.
Ibra, il va voir Neymar, il va lui coller deux tartes.
Attendez les gars, on accueille Thomas d'abord. Vas-y Thomas, tu nous écoutes à débattre. Tu évoques quoi? Campos, éventuelle prolongation de Messi, tu veux parler de quoi?
Non, parce que franchement, ça va m'irriter si je parle de prolongation de Messi. Mais là, vous abordiez un sujet intéressant, et Daniel l'évoquait très bien aussi, c'est en fait, quel est l'entraîneur idéal? Mais en fait, pour moi, aujourd'hui, tu peux placer n'importe quel entraîneur dans le contexte actuel, il ne deviendra pas idéal. En fait, tu peux avoir un entraîneur idéal si tu fais le ménage, comme il a dit Daniel, de fond en comble, en fait. Et là, tu repars éventuellement avec une autre politique, un autre projet, et tu mets un entraîneur qui correspond du coup à ce que tu veux mettre. Et l'exemple, enfin, vous en parliez, mais Thiago Motta, moi, j'aime beaucoup, quitte à repartir un peu en arrière, reconstruire, etc. Mais au moins, ne serait-ce que nous supporters, on veut retrouver un peu de plaisir, un peu d'attache à ce club, cette identité. Et Thiago Motta, moi, voilà, j'ai encore l'image de ce joueur avec le maillot du PSG qui donnait pour le club et qui nous permettait de nous identifier encore PSG, même si, avec l'époque Ibra, etc., on passait pas les quarts de finale. Mais t'avais quand même cette éthique, il y avait une âme quand même PSG, même si Paris était décrié sur ce côté mental, etc., etc. Mais on se reconnaissait, nous, en tant que supporters. Là, le coup, moi, perso, le coup de Kim Kardashian ce week-end, j'ai plus envie de regarder, j'ai plus envie d'allumer ma télé, de regarder une info sur le PSG. Je veux plus. C'est une catastrophe totale. Je veux retrouver
la photo de Nasser avec Kim Kardashian et le maillot, je pense que c'est un coup de couteau dans le dos des supporters.
Dans le contexte actuel,
c'est parce que dans l'absolu, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Tu peux avoir résultats et attirer des stars au fond.
Oui, mais c'est tellement symptomatique.
Voilà, c'est ça. Sur le fond, on s'en fout, Kim Kardashian. C'est pas un problème.
Il y a toujours des stars. C'est tombé sur la star vide par excellence.
Voilà, c'est que tu tombes pas si vite. Tu tombes sur la star qui est.
Excuse-moi, ça.
Pas si vite que ça.
Ah, quand même.
C'est quoi son œuvre?
C'est pas pour la reconnaissance quasiment au quotidien du génocide arménien.
Ouais, enfin, c'est une œuvre.
Elle fait des choses.
Pour le droit des femmes.
C'est le
droit des minorités.
C'est le symbole de la vacuité, de la télé-réalité.
Elle le fait aujourd'hui quand même.
Parce qu'elle a réussi à avoir deux, trois
combats. Elle se sert de sa notoriété pour
elle
faire
ça. Elle incarne une sorte de vacuité de page people. Elle arrive, comme tu disais tout à l'heure, Thibaut, elle va un peu
partout. Elle appelle Neymar d'ailleurs, t'as vu?
Elle appelle en direct partout. Elle se fait pas prendre en photo comme elle l'a fait là. L'autre, il y va là. Mais il était grotesque avec son maillot, là, son petit costume. Je suis à la photo à côté de Kim Kardashian. Mais il est ridicule, Nasser, mais tellement ridicule.
Toi, tu refuses et elle arrive, Daniel Riello peut faire une photo avec.
Mais ça dépend le contexte, quoi, déjà. Et dans ce contexte-là, défaite, machin, et puis c'est en plus après,
trophée, quoi,
le storytelling derrière, elle a téléphoné à Neymar pendant le match et tout. Neymar qui joue pas, qui en ce moment est vraiment le symbole de l'échec du PSG. Mais tout est ridicule. Tout est ridicule.
Bon, ridicule, hein. Thomas, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, moi je voudrais juste qu'on parle de foot, qu'on associe le PSG à un projet, un nouveau projet, mais un projet, même je le disais tout à l'heure, quitte à repartir un peu, faire un pas en arrière pour en faire deux en avant plus tard. Mais je sais pas, trouver une identité, essayer de...
Il y a un an, jour pour jour, on parlait de révolution et de la fin du bling-bling.
Mais oui, mais on savait, Daniel, que tu vas pas faire une révolution avec Campos et Galtier, c'est pas possible. Ouais. De toute façon, si tu restes avec cet effectif-là, ce contexte-là, tu peux mettre, ce que je disais tout à l'heure, n'importe quel coach, ça n'ira pas. C'est pas géré. Un président comme Nasser ne peut pas rester en place pendant plus de 10 ans avec ces résultats-là. C'est pas possible. Je veux dire, là, c'est pas qu'une question d'entraîneur. Moi, j'ai besoin de retrouver l'identité PSG. Nous, les supporters, on est vraiment, on est dépités parce qu'on voit en ce moment. Et on a aimé le PSG parce qu'on aimait le club avant tout et parce qu'on se retrouvait dans ce club-là. Et là, moi, je n'ai plus aucun, j'arrive plus à retrouver ne serait-ce qu'une accroche d'amour de supporter.
Peut-être Thomas, et tu me corrigeras, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, il faut aussi se souvenir de l'ADN particulier de ce club-là aussi. Le Paris Saint-Germain, ça a toujours été plus qu'un club de football. Ça n'a jamais été le football, le cœur de son cœur de métier. Ça a toujours été un club de vitrine, ça a toujours été un club de chemise rose, ça a toujours été un club de panache.
Donc,
quelque part, ce qu'on voit en ce moment, c'est aussi très ADN PSG. C'est sans doute la partie la plus sombre, la plus difficile à regarder, mais c'est aussi
la plus repoussante.
Le reflet symétrique du panache. C'est le contraire du panache qui est le ridicule.
Oui,
mais ça participe de la même idée, à savoir que dans ce club-là, on fait rien comme les autres. Et même si on veut gagner la Ligue des Champions, on gagnera pas la Ligue des Champions comme les autres l'ont fait. On ne perdra pas comme les autres l'ont fait. Et d'ailleurs, ça se reproduit chaque année. Et peut-être même cette saison, on est même un peu déçu dans la manière dont ça s'est passé contre le Bayern, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'effondrement collectif. Il n'y a pas eu le panache qu'il y a eu dans les années précédentes. Donc il y a dans ce club-là cette folie.
Voilà,
il y a eu, cette
folie. Le loser magnifique.
Il y a toujours eu cette folie au Paris Saint-Germain. Parce que ce qui est lié à la ville de Paris, regardez ce qui se passe dans les rues à Paris en ce moment. Il y a toujours eu dans cette ville et dans ce club cet aspect volcanique. Et ça a toujours été partie du club. Et c'est pas, en réalité, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ça, cet aspect volcanique, tu le retournes contre toi-même. Là, c'est un problème. Cet aspect volcanique doit rayonner. Tu dois faire briller la Tour Eiffel sur le blason. Tu dois montrer la ville lumière, etc. Je fais pas le refrain. Mais c'est de dire que tu vas rayonner et c'est que ces rayons-là, ils aillent vers l'extérieur. Et ça, l'ADN du PSG, l'ADN de cette ville-là, de la ville lumière, c'est ça. C'est cet aspect universaliste. Le problème, je le répète, c'est de retourner.
Ça tombe mal, voilà. C'est comme ça retourne. Anne Hidalgo contre à la mairie et Nasser au PSG.
Donc, t'as
c'est pour vous n'engage que toi, mon cher.
Et en plus,
t'as ce qui se passe en ce moment dans les rues de Paris.
T'inquiète pas, ça va pas t'engager, toi.
Tout ça fait partie d'une même mayonnaise.
Tu vas certainement penser que tout se passe très bien à Paris.
Je dis pas ça.
Ce club-là doit trouver son propre chemin. Et il a besoin d'un quelqu'un qui soit capable de l'incarner. Est-ce que Thiago Motta peut le faire? Moi, je pense à un personnage dont on parle jamais pour plein de raisons, qui est Rai. Où est Rai? Pourquoi ce type-là n'est pas là?
Mais parce que je pense qu'il a pas envie.
Évidemment,
il a pas envie.
Je sais pas.
Il sait où il est, il est au PFC.
Oui. Ça pose pas de problème.
C'est une solution un petit peu romantique également, mais
non,
comme
c'est une solution
Daniel,
historique.
Non, mais il faut
c'est une solution historique. C'est une partie aussi.
Il n'y a pas la personnalité pour
l'envie.
Regarde Papin avec Longoria. Il n'a pas le caractère pour être un grand sportif.
Papin, il est là juste pour faire les photos.
C'est ambassadeur.
Non, il est là. Oui, mais il accompagne le président partout.
Ça sert à quoi ça?
Non, ça sert à donner une continuité historique.
Ça, c'est bien. Je pensais que
la vitrine aussi.
Si c'est pour la vitrine, oui, c'est très intéressant.
Non, mais de l'avoir avec la Fondation PSG.
Je suis pour, mais le problème, c'est qu'on n'en est pas là aujourd'hui au PSG. On n'est pas là. On en est à des fondations. On n'en est pas à avoir quelqu'un en tribune à côté du président. On en est à du costaud, quoi.
Je remercie Thomas. Merci Thomas d'avoir fait le 32-16.
Salut Thomas.
Tu peux nous rappeler quand tu veux. Tu es le bienvenu, comme toujours, sur RMC. On parlait un instant d'entraîneur idéal pour le PSG. On va parler de jeu idéal. C'était la quête de l'homme qu'on va recevoir, Christian Gourcuff. Le titre de son livre qui sera avec nous dans quelques secondes. Il y a des questions à lui poser. Je crois qu'il nous regarde quasiment plus le foot aujourd'hui, ça n'intéresse plus, en tout cas l'évolution du foot contemporain ne l'intéresse pas. On va le questionner là-dessus, pourquoi il va nous répondre, reste avec nous Daniel Riolo, Thibaut Leplat, c'est l'After sur RMC, 22h59, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.
RMC.
Tu me prendrais pas pour un perdreau là un peu, non hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non?
38 par 3, ça doit faire 114.
Non, je calcule vite. Matière préférée, c'est les maths.
Je suis un matheux.
Et la Dream Team DRC. Non, j'ai arraché.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Et si Deschamps était la solution un jour au Paris Saint-Germain, peut-être. Hein, on peut faire le débat ce soir. Daniel Riolo, Thibault Leplat, écoutez, dans l'after, je vais me faire insulter, je pense. 23h02, merci d'être avec nous. Tiens, juste pour vous dire également que tous les podcasts club de l'after sont en ligne. After Lyon depuis hier, After Paris. Avec un Daniel en grande forme, d'entrée, qui a bousillé mon sommaire, qui m'est rentré dedans. C'est en ligne également. L'After Marseille également est en ligne. Vous pouvez y aller. C'est la question de Paul Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure également, c'est qu'on a eu confirmation que c'est bien Campos, hein, qui a décidé d'envoyer Ruben Blanco du Celta à Marseille, hein, pour être la doublure de Paul Lopez. C'était
donc
bien sa décision.
Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a envoyé un de ses joueurs qui est dans une agence.
Un confrère
chez le principal rival du Paris Saint-Germain.
Qui travaille en Galice auprès du Celta qui nous a dit ça. Bon, sachez également que demain, on a fait une heure sur le PSG, on fera une heure sur l'Olympique de Marseille. Hein. Flo Germain sera aussi avec nous, Daniel, Thibaut seront là également sur l'ambition marseillaise, sur les prochains mois, prochaines années également. Comment Marseille peut un jour espérer franchir un cap? Flo Gautreau parlait de l'étape numéro 2 maintenant du projet marseillais dimanche soir après la victoire à Reims. Ce sera le sujet demain avec Flo Germain, notamment, et vous au 32-16. Mais d'abord, notre invité, Christian Gourcuff, est avec nous dans l'After. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Heureux de vous accueillir. On vous reçoit parce que vous publiez un livre intitulé Ma quête du jeu idéal. C'est un livre d'entretien dans lequel vous livrez vos réflexions sur le jeu, la tactique, votre méthode qui vous a permis, et je le dis pour les enfants qui ne nous ont pas connus, de faire quasiment 40 ans de carrière en tant qu'entraîneur après avoir été un joueur, entraîneur à Lorient, que vous avez amené et maintenu en Ligue 1. Il y a eu Rennes également, Nantes, le Qatar. En club, la sélection algérienne aussi. Vous êtes retiré des terrains depuis près de 3 ans chez vous sur vos terres bretonnes. Et vous avez, je peux le dire aujourd'hui, 67 ans. Le foot est terminé, je crois qu'on peut le dire, hein, pour vous, hein, désormais. Hein.
C'est terminé. Malheureusement, parce que c'est toujours. C'est toujours difficile d'arrêter parce que c'était une passion, mais bon, je pense que si c'était bien, donc sans regret.
Ça vous manque un peu ou pas quand même, parfois?
Oui, le foot, parce que le foot tel que je l'ai aimé, évidemment, parce que c'est une passion, ça a été une passion depuis mon enfance, donc c'est difficile, mais pas ce que j'ai vécu sur les dernières années. Donc c'est pour ça que la retraite a été la bienvenue. Je pense qu'elle est arrivée au bon moment. Et c'est bien aussi de ne pas avoir de regrets, justement. Donc voilà, tout est très bien.
À quel moment, monsieur Gourcuff, à quel moment vous marquez votre rupture personnelle quand vous dites le foot que j'ai aimé ou la période que j'ai aimé? Et d'ailleurs, j'étais très étonné que votre premier chapitre ce soit le football moderne. Je pensais que vous parlerez du football moderne un petit peu plus loin dans le livre. Donc je reviens à ma question de base. À quel moment vous vous dites là, il y a un truc qui me plaît plus, là j'ai adoré, là c'est un peu fini?
Ben le foot, il reste le foot et on voit toujours, même si je vois beaucoup moins de matchs maintenant, mais on voit toujours des bons matchs. Il y a toujours de belles actions, il y a toujours de bons joueurs. Mais l'environnement du foot a tellement été modifié que ça change tout. Ça change la perception des choses. Les structures de clubs qui ont modifié beaucoup de choses avec une du résultat à outrance, et tout est basé sur le résultat, mais c'est à l'image de la société, hein. Je pense que ça c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est une évolution de la société. Alors, moi je dirais que ce que j'ai connu à Lorient à une certaine époque, et je me rends compte maintenant, c'était exceptionnel. Donc ça, il y a eu une accélération très très rapide ces dernières années, je dirais depuis 10 ans.
On parle souvent de Régis Lebris également. Je ne sais pas si vous regardez encore les matchs de Lorient. Christian, vous les regardez? Vous avez encore un lien particulier avec le club?
Non, pas du tout.
Plus du tout. Bon, j'imagine que l'arrivée d'un actionnaire américain, notamment à Lorient, n'a pas dû vous ravir.
Alors revenons à votre premier chapitre. Donc
j'avais une question sur ce qu'il pensait peut-être. Parce que Régis Lebris semble s'épanouir pleinement, tu vois, en tant qu'héritier peut-être de Christian Gourcuff à Lorient.
En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il a une grande admiration pour vous, toujours. Il parle du sens collectif et du sens de la collaboration, en particulier dans votre football. Dans le bon sens du terme, évidemment.
Mais est-ce que ça vous touche?
Bien sûr, j'imagine.
Ben Régis, on a travaillé un an ensemble. Je l'ai fait venir au centre de formation. Bon, on voyait bien que c'était quelqu'un d'intelligent, il y a pas de problème sur ses qualités. Après, c'est qu'il est et ce qui s'est passé à Lorient cette année, bon, ça me surprend pas, dans la mesure où moi je suis parti justement parce que j'étais en désaccord avec cette politique de dirigeante et de mais qui n'est pas simplement à Lorient. Lorient est privilégié parce que c'est un petit club. On voit bien qu'il y a des investisseurs américains qui viennent, américains ou autres d'ailleurs, dans tous les clubs. Donc ça change complètement la donne sur le plan sportif. Déjà sur le plan de la durée. Le travail se fait dans la durée. Voir maintenant quel entraîneur peut se prévaloir d'avoir un peu de temps. Guardiola peut-être à City parce qu'il a une aura, mais la notion de temps qui existait il y a 20 ans encore n'existe plus.
Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça, et que la notion de la pression du résultat, la pression des investisseurs, ça existait déjà. Après, qu'il y ait une sorte de phénomène qui perdure et qui peut lasser, ok, possible. Mais n'allons pas débattre de ça, parce que votre livre, c'est tout autre chose. Vous parlez évidemment de ce qui vous intéresse le plus, à savoir le jeu et le terrain. Il y a un autre point commun, en dehors du fait d'avoir entraîné Lorient avec Lebris, c'est qu'en ce moment, il est un peu chouchou des médias. Et si on parle de vous, parce qu'on doit parler de vous et de votre livre, pendant des années, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, parce que vous n'étiez pas quelqu'un qui parlait beaucoup dans les médias. Nous, en tout cas, dans l'After, vous faisiez partie évidemment des entraîneurs dont on disait toujours du bien, parce qu'on aimait vos principes de jeu, parce qu'on aimait votre football. Est-ce que vous vous en rendiez compte, ça, finalement, que vous étiez dans tous les médias, énormément de journalistes ou de gens qui font l'opinion dans le foot, un entraîneur qui peu importe. C'est marrant parce que vous voyez, vous parlez de pression du résultat, mais finalement, on s'intéressait évidemment à vos résultats, mais pas tant que ça. Ce qu'on aimait chez vous, c'était votre discours et le jeu que vous proposiez finalement.
Oui, mais parce qu'on était à Lorient. Donc c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans... Finalement, dans les petits clubs, on est encore un peu privilégié justement parce que on aborde les choses un peu différemment. Après, il faut pas noircir non plus complètement. C'est-à-dire que la notion de plaisir, la notion de sport, elle a pas disparu. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est de moins en moins présente par rapport à des intérêts financiers qui sont présents partout. Et c'est, je parle des dirigeants, je parle des joueurs aussi. La mentalité des joueurs qui a énormément évolué en 10 ans. Les
ça,
joueurs que j'ai connus,
sont
complètement différents des nouveaux joueurs. Avec les agents, les je dirais même les supporters qui sont aussi différents de ceux qui existaient il y a 20 ans. C'est incontestable. Donc la presse a évolué aussi, les réseaux sociaux ont modifié les choses. Donc c'est tout un environnement qui a modifié. Maintenant, c'est pas bien sûr le foot, ça reste le foot. On peut très bien s'amuser encore sur un terrain, et heureusement.
Mais alors vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand je parlais des années où vous étiez un petit peu l'ovni de notre football, l'homme qui a des méthodes différentes, l'homme qui propose du jeu, il y a eu des belles périodes quand même à Lorient, on s'en souvient tous évidemment. Si vous regardez plus le foot, j'aurais presque envie de vous conseiller de rejeter un petit coup d'œil sur la Ligue 1, parce que les années où vous entraîniez dans les années 2000, où on aimait beaucoup vous regarder. Je pense que vous pourrez pas dire le contraire, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on se faisait chier en Ligue 1 avec certains de vos confrères qui partageaient pas du tout vos idées.
T'as raison. Si Gourcuff était l'ami des, enfin, si les médias valaient Gourcuff, les entraîneurs français avaient du mal à le trouver un peu arrogant, le professeur de maths.
Si vous regardez la Ligue 1 aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus il y avait pas mal, vos confrères étaient pas tendres avec vous, ça c'est vrai. Mais si vous regardez, rejetez un coup d'œil à la Ligue 1 aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs, on s'emmerde beaucoup moins, il y a beaucoup d'entraîneurs qui envoient du jeu maintenant. Hein.
Ben c'est bien. Mais par contre, c'est sur quelle durée? Vous avez quel entraîneur qui peut se targuer d'avoir 10 ans d'ancienneté dans un club?
Non, mais il y a 10 ans d'ancienneté,
Coco Soudo, bien sûr.
Non, mais c'est un peu valorisant, Christian Gourcuff, de voir, je sais pas, à l'OM, Tudor démarre sa première saison, le jeu qu'il fait pratiquer à l'équipe, alors qu'il a pris l'équipe cet été. Franchement, je pense que ça pourrait vous intéresser, c'est assez intéressant. Et il y a pas mal d'entraîneurs qui proposent des choses plutôt bien et qui arrivent à les mettre assez vite en place, hein.
Oui, mais ce que je vous dis, c'est sur la durée, sur la mise en place la création d'un collectif, ça demande du temps, et un consensus autour qui permettent de travailler dans la durée, et ce qui n'est plus le cas, hormis des clubs encore privilégiés au plus haut niveau, ou alors au niveau inférieur, où justement on leur fout la paix parce que bon, ça intéresse peut-être moins les médias, donc c'est voilà. Maintenant, je veux dire, c'était moi, je l'ai ressenti un certain temps aussi, parce que il y a une question d'âge aussi, et quand on est en décalage avec l'environnement, on est d'abord moins performant, moins entraînant, c'est clair, et puis donc il faut savoir s'arrêter.
D'autant que vous aimiez participer aux entraînements avec vos joueurs, notamment être au cœur du travail au quotidien, et que aujourd'hui vous ne sentez plus de le faire. Thibaut, des questions à vous poser.
Regardez ça déjà. L'entraîneur qui entraîne, alors maintenant on pourra me dire c'est pas pour ça que c'est moins bon, mais c'est l'entraîneur qui entraîne, c'est devenu très extrêmement rare, donc. Oui. Donc la part de l'entraîneur dans la création d'un collectif est bien moindre qu'elle n'était il y a 10 ou 20 ans.
On va parler de ça dans un instant avec vous, Christian Gourcuff. Hein. On va prolonger Thibault Leplat à des questions à vous poser.
Le recrutement.
Comment ?
Le recrutement, par exemple.
On va en parler également, si vous voulez. Restez avec nous encore, Christian Gourcuff. On a des questions encore à vous poser. On va parler de tactique, de votre sacro-saint 4-4-2.
Si tu dis pas une pause, il peut pas l'entendre.
Si
t'as pas dit.
On j'ai pas dit. On fait une pause.
Pour ça. Ouais.
Bon, je vais retourner à l'école de journalisme quelques mois peut-être. Christian Gourcuff, on revient dans un instant. On fait une pause. Hein. Dans moins de deux minutes, on est avec vous. Des questions à vous parler de 4-4-2, du 3-5-2, ce que vous en pensez également peut-être. Ce système à la mode depuis maintenant 10 ans. C'est l'after avec Thibault Leplat, Daniel Riolo. Restez avec nous, c'est RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Thibault Leplat, Daniel Riolo, RMC 23h15. Et avec Christian Gourcuff, auteur du livre d'entretien Maquette du jeu idéal aux éditions Amphora. D'ailleurs, rapidement, votre fils a préfacé ce livre. C'était symboliquement, c'est beau. C'est fort également. Ça vous a touché? Vous l'avez demandé? Comment ça s'est passé, Christian?
D'abord, c'est pas mon livre, hein. C'est Julien Courbert qui l'a rédigé.
Enfin, bon,
c'est un livre d'interview, donc j'ai quand même participé de façon active quand même. Mais
bah oui,
bon,
et puis après, bon,
il a sollicité Johan, qui s'exprime très peu, et voilà, oui, bah c'est, je pense que c'est, enfin, bien sûr, ça m'a assez touché ce qu'il dit d'ailleurs dans le. Et, c'est une belle introduction.
Dites tout ce qu'il dit quand même rapidement avant de rendre la parole à Daniel et à Thibaut. Il explique que vous l'avez pas forcément transmis directement par le verbe, en tout cas vos préceptes quand il était petit, il venait à l'entraînement vous voir quand il avait 4 ans, mais qu'il s'en est lui-même imprégné en réalité.
Oui, mais je crois que c'est la valeur de l'exemple qui fait que après il y a des valeurs au niveau du foot, au niveau de la sensibilité qui se transmettent et qui sont et puis après qui restent qui perdurent tout au long de la carrière et puis de la vie. Donc c'est en ça que son témoignage est assez émouvant, parce que évidemment c'était pour moi qu'ils se reconnaissent dans ma façon de voir le foot, c'est quelque chose qui était émouvant.
Thibaut.
Oui, alors justement, vous dites ma manière de voir le foot, on a envie de dire la manière de voir le monde aussi, parce que quand on vous suit depuis longtemps, quand on suit déjà, c'est pas votre premier ouvrage, vous avez déjà publié, vous parlez souvent, et dans celui-là aussi vous y revenez, des différentes influences qu'ont eu sur vous plusieurs personnes, alors Arrigo Sacchi au point de vue tactique, Jean Prouf à Rennes comme formateur, et aussi un autre qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui a eu un rôle fondamental dans les années 70 dans la doctrine du jeu, je pense à François Thébault, et au miroir du football. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'était précisément pour vous, ce qu'a représenté le miroir du football, et pour toute une génération qui a représenté un peu cette idée d'un football collectif, offensif, une sorte d'utopie faite football?
Oui, bah c'était le miroir du foot a forgé mon éducation et pas seulement sportive. Donc c'est déjà sur des valeurs éthiques, des valeurs la notion de artistique dans le sport. Donc c'était moi j'avais
miroir du foot, c'est un magazine, je précise, Christian Gourcuff, bien sûr.
Pour les jeunes, alors oui, pour les plus jeunes, c'est sûr, c'était un mensuel, bon, qui était un petit peu en concurrence avec France Foot et l'équipe, où il y avait deux notions philosophiques un peu qui s'affrontaient. Et donc moi j'ai été baigné très jeune avec le miroir du foot. À cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les matchs à la télé étaient très rares, donc la culture foot, elle se faisait, on l'apprenait où on pouvait, et les lectures de ce magazine c'était quelque chose de très très important. Donc j'ai été forgé un petit peu là-dessus, sur cette, ce qui dépassait le cadre vraiment du terrain, parce que c'était aussi une conception, oui, de collective de la société.
Il faut préciser, juste Christian, pour préciser que le miroir du football était édité par les éditions du Parti communiste aussi, en pleine période où c'était une guerre fratricide entre les libéraux et les communistes, et ça a donné lieu aussi à des prises de position idéologiques. Le football était un outil d'émancipation du prolétariat, et on considérait que c'était une forme d'utopie en acte. C'est pour ça que je vous parle là-dessus. Et c'était, il faut dire que c'était une querelle qui était très véhémente, hein, entre Jacques Ferrand et François Thébault, c'était très violent.
enfin bon, j'ai bien connu moi après François Thébault un peu plus tard, et puis tous les l'équipe de Miroir du foot, ils étaient pas du tout ils étaient pas au parti communiste, c'était j'ai des gens qui avaient des idées sociétal avancé, mais qui était pas membre du parti communiste. Et la preuve, c'est que en 76, je crois que François Thébault s'en va parce que les éditions J veulent lui imposer une ligne
plus proche du parti,
plus dur, ouais.
de rédaction, et donc il s'en va. Donc il y avait aussi cette forme de liberté.
Oui, mais non, mais d'accord, mais il y avait justement, moi je trouve que ça dépassait parce que ok, c'était marqué politiquement, on le sait, mais quand on aimait vraiment le jeu, enfin ça représentait un peu une vision du foot
à contre-courant un peu.
Ouais,
un
et puis c'est le jeu collectif, ce qu'on appelle aujourd'hui le beau football.
Un des éditos de François Thébault, un de ses premiers, il dit que le football doit être offensif comme l'ouvrier à l'usine doit être offensif. Et c'est dans ce sens-là que les miroirs du football étaient une manière de refléter ce qu'étaient les rapports de force à l'intérieur de l'outil de production. Et c'est en ce sens-là qu'il avait été d'inspiration quand même marxiste ou communiste, mais il parlait pas de Marx, ni du PC, ni quoi que ce soit. Ça parlait que de football.
Mais tu pouvais apprécier cette idée sans la politiser, en fait.
Bien sûr.
Sur le terrain, tu pouvais voir.
C'est pour ça que je parlais de vision du monde.
Ce qu'on voulait, c'était voir du beau football, quoi. Et souvent, c'était ça, un peu, ce magazine.
Pour moi, j'ai été baigné aussi par le Brésil. Et le Brésil, c'était justement, la connaissance du Brésil, c'était au travers du miroir du foot. Donc c'était et le Brésil qui était à l'époque sous l'influence d'une dictature militaire. Hein, donc,
ouais, c'est vrai.
Vous avez c'est votre livre, le titre, Maquette du jeu idéal. Est-ce que vous avez atteint votre jeu idéal dans votre carrière, Christian Gourcuff, une fois, une saison?
Je crois que ça s'atteint pas, hein, d'idéal. Hein. C'est juste une direction. C'est un objectif qui fait que
vous êtes rapproché.
Comme j'explique, j'ai paru souvent très tendu pendant les matchs parce que je me fixais tellement d'exigences que voilà. Mais il y a eu des bons moments. Mais je pense que pour un entraîneur, les moments d'extase sont très très rares. Et par contre, les moments de frustration beaucoup plus fréquent.
Alors, dans les moments de frustration, voilà. J'imagine qu'il y a eu cette année avec Lorient où franchement ça joue bien. Alors il faudrait que j'en fasse l'équipe, mais quand je vois bien le 4-4-2 avec Gamero devant là, et en fait ce qui se passe c'est que la frustration elle doit venir du fait qu'à la fin on vous enlève des joueurs, quoi, et que c'est pire quand on vous les enlève au dernier moment sans même presque vous consulter. C'est là que ça doit engendrer une frustration terrible quand vous mettez en place, quand vous avez une équipe. Je crois que cette année-là, vous avez même des joueurs qui, sur le profil ou la valeur, peuvent être ailleurs qu'à Lorient, quoi.
C'était le collectif qui tirait les individualités, hein. C'est-à-dire qu'on avait des joueurs qui venaient à Lorient parce qu'ils pouvaient pas aller ailleurs. Enfin, on prenait souvent des joueurs d'ailleurs de L2, et puis la valeur du collectif, le travail du collectif faisait valoriser les joueurs, et puis qui après prenait une autre dimension, et puis qui aspirait à partir. Alors ça, c'est, je dirais que ça c'est une logique aussi dans la carrière. Pour le club de la dimension de Lorient, c'était aussi une logique économique. Après, effectivement, quand ça devient un marché et que on vous vend un joueur à 2 heures de la fin du mercato, on n'est plus dans une logique sportive.
Ah, là, la fameuse relation Loïc Ferry-Vincent Labrune.
Le Ferry Time.
Ah, les fameux amis, la liaison Lorient-OM.
Bon, c'est le duo Gamero-Amalfitano auquel tu pensais aussi.
Oui, c'est Daniel, ça. Exactement. Parce que j'étais en train de dire Samaritano, c'était pas le même choix.
Quel joueur qui était le plus le reflet, mais en tout cas le relais de votre quête d'idéal, Christian Gourcuff? Vous en avez connu des grands, des très bons joueurs également, à Lorient ou ailleurs, même à Rennes.
Hein. Oui, non, c'est difficile d'en tirer un, parce que bon, sur...
Ou plusieurs.
Oui, plusieurs. Alors, je dirais l'équipe là, de 2009-2010, qui est Faiura, Morgan Amalfitano, j'ai eu Fabrice Abriel aussi, qui a été un joueur qui était, à mon sens, aussi sous-estimé.
Un joueur intelligent.
Après, il y a eu, Ouais, qui avait une sensibilité du foot très poussée. Laurent Koscielny, c'est incroyable parce qu'il arrive, on le prend en L2 et au bout d'un an, bah, il part à Arsenal. Donc, enfin, il y a eu des histoires quand même assez fantastiques.
Quel souvenir vous gardez d'André-Pierre Gignac également, question Gourcuff.
Ah oui, c'est rigolo ça.
Ouais, bon, André-Pierre, c'était un personnage, c'était pas facile à gérer non plus toujours, mais bon, avec voilà, c'était. Avec toujours quand même cette envie de jouer justement qui était et puis même cette convivialité qui faisait qu'il y avait un échange même si quelquefois c'était un peu plus difficile mais voilà puis après bon bah c'est, sa carrière parle pour lui aussi hein.
Je reviens à vos références. Bon, évidemment, vous en avez parlé mille fois. Rigosaki a révolutionné le football et il vous a marqué. Vous parlez également de la sorte de perfection qu'avait atteint le Barça de Guardiola. Est-ce que vous avez compris tout au long de votre carrière pourquoi certains de ces entraîneurs-là, quand ils étaient vus par des gens du foot qui soit ne voulaient pas se donner le mal de mettre en place ce type de jeu-là, ils étaient parfois regardés avec un, même encore Guardiola aujourd'hui, hein, il y a des gens qui espèrent le voir perdre. Parce que, en gros, pour parler vulgairement, il se prend trop la tête, il veut trop se mettre en avant.
Il y a une forme d'arrogance selon certains.
Il y a une forme d'arrogance chez lui. C'était la même chose avec Saki à l'époque. Hein. Vous comprenez ? Est-ce que vous l'avez éprouvé, ça, vous aussi, parfois, ce truc-là ?
Oui, bah, il y a une forme de jalousie, il y a une forme de voilà, je pense. Le fait qu'ils aient des idées, que beaucoup de gens ne pensaient pas non plus qu'on puisse peut-être perfectionner le jeu comme ça, que c'était plus quelque chose de spontané et puis qu'on n'avait pas trop intellectualisé le foot. Ça aussi c'est possible.
Voilà, Christian Gourcuff, merci d'être venu dans l'After. C'est un plaisir de vous accueillir, de vous écouter parler également pour votre livre Maquette du jeu idéal, écrit bien sûr.
Ah, mais tu n'as pas posé ta question sur le 4-4-2 parce qu'il est plutôt adepte du 4-4-2. Tu voulais lui.
Tu veux, oui, bien sûr.
Ah, quand même, on faut
faire. Évolution tactique, 4-4-2, c'est votre sacro-saint 4-4-2, justement. Alors, aujourd'hui, c'est le sacro-saint 3-5-2. On parle de piston en permanence. Comment vous voyez l'évolution tactique de notre football? Alors, c'est pas monolithique, hein. Tout le monde ne joue pas en 3-5-2, mais c'est une évolution quand même.
Bah, je pense qu'il y a toujours des effets de mode dont je me suis moi toujours gardé. Moi le 4-4-2, ça a été une longue réflexion et bon bien sûr le Milan de Sacchi a été important mais pas seulement parce que Suodo aussi m'a beaucoup inspiré donc et c'était une réflexion qui permettait de en fait quelle était l'organisation qui permettait d'avoir un jeu collectif le plus performant sur le plan de l'occupation de l'espace et qu'il soit le plus souple pour pouvoir développer les points forts de chaque joueur et le 4-4-2 me paraissait le plus intéressant pour ces deux aspects. Ce que je développe aussi c'est que le 4-4-2 on n'était pas en 4-4-2 dans toutes les phases du jeu, c'est-à-dire en phase offensive, on était en 2-3-5 par exemple, donc c'est faut toujours relativiser, bon le grand public a l'impression qu'on reste en 4-4-2 tout le temps en permanence
c'est
beaucoup plus fin que ça.
Christian Gourcuff, Maquette du jeu idéal, hein, écrit avec Julien Gourbert aux éditions Amphora, merci. Et puis voilà, merci d'être venu dans l'After. Pourquoi merci pas tous les jours, hein, vous écoutez à nouveau. Merci encore une fois. Dans un instant, les gars, l'équipe de France, dernière nouvelle, puisqu'on est en trêve internationale, les Bleus vont jouer deux matchs éliminatoires pour l'Euro 2024. Hein, Daniel, tu pensais que ça ne servait pas à grand chose, tu ne savais pas.
Non, c'est
ce que les Bleus allaient jouer.
Tu as
découvert que Todibo était appelé au sein de l'équipe de France aujourd'hui.
C'est des matchs amicaux.
Voilà.
Bah oui, non, surtout j'ai découvert que c'est fini, alors Sissoko il vient plus.
Non.
Il va revenir, t'inquiète pas.
Mais Mbappé est capitaine désormais, on va en parler. Ah, était-ce un choix évident? Restez avec nous, l'After avec Thibault Leplat. Daniel Riolo sur RMC, 23h28, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
L'After RMC 23h31 avec Daniel Riello et Thibault Leflat. On est ensemble jusqu'à minuit, les gars. Donc, premier entraînement des Bleus aujourd'hui, en public. 400 personnes invitées avec La Fontaine. premier entraînement en public depuis la Coupe du Monde au Qatar. Évidemment, Mbappé et Griezmann étaient scrutés pour savoir si l'un accusait le coup après que l'autre a été nommé capitaine, en l'occurrence Mbappé. Nous, ce que l'on sait, c'est que Griezmann était déçu, très déçu même de ne pas l'être. Il va lui falloir un peu de temps pour le digérer. Lui et ses 117 sélections, son expérience, sa fidélité presque maladive à Didier Deschamps depuis qu'il est arrivé.
Il va faire un grand verre d'eau et la pilule, elle va passer.
Face à Mbappé qui n'a que 66 sélections, mais voilà, qui est devenu un rouage plus qu'important, indispensable à cette équipe de France-là. C'est vrai que sur les réseaux, je voyais aujourd'hui, notamment sur le site RMC Sport, avis très partagé sur le capitana. On aurait pu croire qu'il y aurait publicité majeur pour Kylian Mbappé capitaine. Eh bien non, c'est beaucoup plus partagé que ça, parce que Griezmann au cœur du jeu.
Tu sais pourquoi?
Griezmann humilité, mais Griezmann.
Ça ne veut rien dire cœur du jeu et tout. C'est juste.
C'est un argument.
C'est le tempérament effectivement culturellement français qui est que au bout d'un moment.
De mascotte Griezmann.
Au
aussi.
Bout d'un moment, ça Astérix. Va bien. Ça va bien de ne prêter qu'aux riches. Le mec, il a tout. Il est fort sur le terrain.
C'est le capitaine gilet jaune.
Il est fort sur le terrain. Tout lui réussit, il décide de tout. Et attention, il agace par bien des aspects. Et je me mets dedans. Moi aussi, il m'agace par bien des aspects. Son individualisme forçonné, la façon dont
son macronisme à peine dissimulé.
Ça t'agace ça?
Non, je commente. Okay.
On se dévoile, j'ai l'impression.
Non, mais je peux.
C'est
l'opinion publique.
Il est proche de Macron. Le côté, je suis proche de politique et en l'occurrence du président. Le côté, enfin, je sais pas. On me donne tout au PSG. J'ai fait la politique sportive. Et bah, ok, toi t'es bon sur le terrain, mais la politique sportive, elle est pas bonne. Donc t'aurais pas dû t'en mêler. Non, par bien des aspects, il peut être agaçant. Maintenant, sur le terrain, il est irréprochable. Que ce soit avec l'équipe de France, avec le PSG. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc, en même temps, il t'agace, mais tu peux pas trop crier parce que sur le terrain, il est bon. Donc, je peux comprendre que certaines personnes disent Griezmann. Mais je rappelle quand même que Griezmann, il y a encore quelques mois, le public français était pas à 100% fan de lui. Il essuyait pas mal de critiques aussi pour d'autres motifs. Là, c'est vraiment juste parce qu'on ne veut pas tout donner à Mbappé qu'on se dit. Que certains disent dans les messages que tu as lus, ah mais peut-être que Griezmann ça aurait été mieux, machin, si cela. C'est juste pour l'idée de ne pas tout lui donner. Sauf que
non, je crois qu'il apprécie Griezmann. Il est populaire
patron,
aussi, Daniel.
C'est devenu le patron du football français, Mbappé, incontestablement. Griezmann a pris un couteau dans le dos de Deschamps.
Enfin,
de toute façon, Griezmann doit bien apprendre tôt ou tard que Deschamps c'est tout pour ma gueule et qu'il y a pas d'amis et que effectivement c'était le chouchou de la maîtresse, Griezmann. Mais
jusqu'à ce qu'il y ait un petit génie qui arrive.
Jusqu'à ce que les intérêts de Deschamps soient préservés. Sinon, il met tout le monde sous terre, hein, Deschamps. Par intérêt, il te creuse un trou en deux secondes, il t'enterre, bon. Il met la pelle et il te met.
Oui, bon, tu vas un petit peu loin quand même. Avançons.
Je te parle de psychologie d'un personnage. Donc, il va lui faire avaler la pilule. Et puis il va l'avaler, et puis il jouera, jusqu'à l'Euro, Griezmann. Et puis s'il est performant, il continuera. J'en sais rien.
Mais écoute, moi hier, juste avant que soit annoncé cette info, moi j'ai dit.
On est à 23h50 hier soir.
Moi, je pensais que pour Deschamps, il y avait un risque à nommer Mbappé, un risque politique, à savoir donner beaucoup de pouvoir à un joueur qui prenait un risque politique à l'intérieur de son vestiaire et même au sein de la fédération. Mais avec toujours l'idée que Deschamps est un génie politique. C'est vraiment quelqu'un qui sent très bien les coups, qui sent très bien les hommes. Dieu sait que je trash Deschamps,
c'est parce qu'il l'a senti qu'il l'a nommé.
Et voilà. Et c'est là où, encore une fois, moi, je me suis fait avoir là-dessus, parce que j'ai pas cette intelligence politique que lui a, j'ai pas vu le truc. Lui, il a vu que son intérêt était que Mbappé soit capitaine.
Absolument.
Pourquoi? Parce que Mbappé a eu la tête du président de la Fédé. Que le nouveau président de la Fédé, c'est pas, notre ami, comment il s'appelle, Philippe Diallo. C'est Kylian Mbappé. C'est une sorte de président façon Troisième République, façon Troisième République, une espèce de poste absolument, prestigieux.
C'est une très très belle analyste.
Hein. Je pense qu'elle est vraie. Et je crois qu'il a senti ça. Et moi, encore une fois, c'est-à-dire que moi, je l'ai pas vu ça. Et je crois que effectivement, son intérêt est là.
Parce que moi, j'ai toujours pas dit un mot sur Le Graët. Je disais que c'était des racontards. De journaliste, machin, j'ai toujours rien dit et tout, mais je nomme capitaine celui qui, par un tweet, l'a enterré. L'habileté politique, Thibaut a absolument raison.
Il faut savoir trahir au bon moment.
Exactement, et ça, Deschamps est un maître en la matière.
Nous avons beaucoup à apprendre.
Il nomme Mbappé, qui va être le capitaine, et c'est tout à fait logique, meilleur joueur. Il n'oublie pas néanmoins de regarder ce qui se passe dans le vestiaire, et il voit que Mbappé est suivi par tous les jeunes. C'est ce que j'appelle les jeunes, c'est... Upamecano,
suivi en tout cas, remettra pas en cause son statut de capitaine.
Tous ces petits gars qui sont des gars bien, tous des gars bien. C'est une belle petite bande quand même qu'on a chez les Bleus et qui se dit Mbappé, on le respecte.
Le pouvoir il a déjà
parce qu'il est fort et qu'à la Coupe du Monde. Il nous a emmené, c'est lui qui nous a tiré en finale. Parce que sans Mbappé, jamais de la vie on va en finale. On perd peut-être en huitième ou en quart.
Sans Mbappé, jamais de la vie Deschamps est encore sélectionneur de l'équipe de France.
Exactement.
Bon, après, ce risque-là,
c'est finalement assez facile à comprendre.
Des conférences
derrière
de presse.
L'explication.
Des conférences de presse. On sait que quand Mbappé parle, c'est toujours un événement.
Ah, mais de toute façon, ce sera un peu
mieux. Il y a un engagement dans la parole également.
Ça va être mieux que Hugo Lloris.
Oui,
non, parce que quand même on sort d'un capital à 10 ans, Golioris s'est fait chier comme la mort.
Il y a un risque.
Golioris l'a reconnu, excuse-moi, en se marrant, en disant effectivement, vous êtes content les journalistes, maintenant je quitte l'équipe de France, vous n'aurez plus mes conférences de presse au tiède où je dis absolument rien, mais je l'ai fait pour protéger l'équilibre du groupe. Bon, il faut qu'ils comprennent également qu'on peut dire des choses sans mettre en péril l'équilibre du groupe. En conférence
de presse. Qu'ils ont une vision apocalyptique de la conférence de presse, donc c'est sûr qu'ils s'imaginent que le monde va trembler dès à l'instant, ils vont dire quelque chose d'inintéressant sur l'équipe de France. Je ferme la en tête. Mais sur le cas Mbappé, il y a quand même un risque qui est pris de la part de Deschamps. C'est là où le calcul, on va voir ce que ça va donner, c'est que Mbappé, je pense que pour lui, en tant que joueur, ça va l'aider, parce que ça va le forcer à penser au collectif un peu plus, de représenter autre chose que lui-même. Et ça va même l'aider, je pense, pour son image.
Sortir de lui-même.
En revanche, pour Deschamps, et peut-être pour ce qu'est le staff de l'équipe de France, que représente l'équipe de France, Mbappé, c'est un électron libre, hein. C'est un peu le principe des grands joueurs. Les Maradona, les Pelé, ce sont des types qui représentent.
Ouais, mais Maradona était un vrai capitaine. Hein.
Oui.
Il fédérait. Hein.
Oui, mais à partir
comme
de
Platini,
quand
est-ce qu'il
a été avant d'être capitaine? Je sais pas, ça.
Est-ce que le brassard est un déclic?
Oui. Est-ce que, possible. Dans le cas d'Mbappé qui calcule tout?
Et dans ces cas-là, ça pourrait lui faire beaucoup de bien.
Ça peut l'aider, ouais.
Vous avez noté quand même qu'il y avait quelque chose de très symbolique. Beaucoup de gens ont rigolé, de la scène sur les réseaux sociaux. Mais.
Ah oui, quand il arrive habillé en géant de discothèque.
Mais sans faire attention.
Patron du château.
Sans faire attention à l'allure. Non, mais toi, tu dis ça
et tout. Le
défilé, c'était Fashion Week, de tous les joueurs. Il y avait énormément de Vuitton, il y avait
les cheveux roses de Griezmann également.
Il y avait
beaucoup
plein de
marques. Beaucoup de Matu Vu, comme on dit dans
mais la sobriété de Mbappé.
Zéro sobriété, que des marques mises en avant. Il y avait du Gucci, il y avait beaucoup de marques qu'on connaît, machin. Et lui, il arrive, il est en Dior, mais c'est même pas la marque. Il arrive en classique. Il est classique.
Sneakers, col roulé, jean.
Col roulé, manteau, jean. Lui, il est en classique. Alors que les autres... pète. Les autres c'est des boules à facettes de discothèque et lui il arrive,
c'est le patron de la discothèque. C'est le boss.
Mais t'es qu'à l'étage là
avec les lunettes.
Mais l'image elle signifiait beaucoup. Au-delà des lunettes de soleil alors qu'il y avait l'obscurité, il voyait plus rien, il a failli se tamponner contre un mur à un moment.
Le videur en fait, hein,
c'était la lumière.
Le videur
est toujours très sobre. Le videur à Paris ou ailleurs.
Mais t'as vu le manteau qu'il avait, le manteau il rachète ton appart avec son manteau.
C'est sûr qu'il va le mettre une heure, donc
c'est possible. Guillaume est avec nous au 32-16. Salut Guillaume.
Avec combien un
manteau Dior, Thibaut, tu peux faire un manteau?
Je sais pas, tu sais très bien.
Non, je sais pas, mais.
Manteau Dior de.
Guillaume, alors, c'était plutôt Griezmann ou Mbappé pour le capitana, toi?
Ou Griezmann, bien sûr. Moi, j'ai été rassuré par rapport à ce que vous disiez. Bon, déjà, quand on met dans la même phrase des joueurs comme Mbappé, Pelé, Maradona, ça me dérange toujours, parce que voilà.
Oui.
On est quand même pas encore au même niveau. Je lui souhaite, évidemment. Je mets pas non plus Griezmann au même niveau que les autres, c'est pas ça la discussion, évidemment. Mais évidemment, j'étais Griezmann. En fait, on cède au buzz. On cède au buzz, comme vous l'avez dit, parce qu'il a fait un tweet et qu'il est suivi sur les réseaux sociaux, et donc ça a fait le buzz, et donc la ministre des Sports en a profité parce que elle aussi, elle veut de toute façon faire le ménage dans toutes les fédérations, donc elle s'en est servie pour ça, et donc c'était un château de cartes où les dominos, on utilise l'expression qu'on veut. Mais moi, en fait, ça veut dire qu'on rentre, pas entre guillemets, même totalement, on met le sportif de côté. C'est-à-dire que le sportif, le choix sportif, c'était Griezmann. Ou éventuellement, s'il n'était pas tout le temps blessé, Pogba. Mais donc, en gros, on choisit le buzz, on choisit la médiatisation. Je suis pas sûr que l'équipe de France, à ce niveau-là, aille dans le bon sens.
Voilà, je l'ai trouvé.
Bon. La question également, Guillaume, c'est que finalement, est-ce un débat si important? C'est plus un enjeu politique qui aurait pu vexer l'un ou l'autre, qui a vexé l'un plutôt que l'autre, qu'un réel enjeu sportif, les gars. Je sais
pas. Il y a un élément.
On a eu Gullioris qui n'était pas un leader non plus. Alors, certes, il était vocal apparemment dans le vestiaire.
On a un élément. Rappelle-toi,
on s'en fout un peu dans du brassard.
Les affaires de racisme avec la Fédé aussi. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un symbole, là. Un symbole politique, encore une fois, le fait que ce soit Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, ça rentre aussi en ligne de compte.
Oui, donc c'est politique.
Kylian,
c'est ce que
Kylian avait été, Kylian Mbappé a été douloureusement touché par les tweets racistes, etc. Je pense que ça rentre aussi en ligne de compte comme une forme de reconnaissance de, d'un statut particulier et que effectivement Kylian Mbappé représente aussi une partie de la minorité, des minorités visibles aussi.
Guillaume,
Non. Je dis pas que c'était mon avis. Je dis que c'est la.
Tu étais un peu loin, peut-être. C'était bien au début l'analyse.
Ah non, vous rigolez ou quoi? C'est évidemment que ça rentre en ligne de compte, évidemment.
On n'est pas sûr.
Surtout le visage du football français maintenant, c'est qui?
Je suis désolé, j'étais dans le manteau.
Voilà, on a trouvé le manteau.
Bah, je suis désolé.
Combien le manteau?
Bah, franchement, je voyais ça beaucoup plus cher.
Attends, on peut jouer juste prix comme Philippe Rézoli.
Ouais, vas-y. Moi, franchement, je voyais ça beaucoup plus cher.
Alors, Guillaume, tu peux jouer avec nous si tu veux aussi. Hein.
Alors, attends, je vous
le prix du manteau.
Non, évidemment, on doit parler juste de style.
Alors, je vous donne les infos.
Descriptif complet.
On est sur un manteau classique homme, bleu marine, drap de cachemire. Marque Dior.
Le nom du cachemire.
Non, mais si on parle évidemment juste tenue, quand on voit les défilés à chaque fois, je les vois par image, oui, etc. Évidemment que Mbappé, il était au-dessus des autres, là, aujourd'hui, c'est tout. C'est juste, il faut juste le dire, quand on rentre dans le château, faut enlever les lunettes, c'est tout. Enfin, voilà.
Ou est-ce que tu veux jouer au juste prix? Combien ça coûte, le manteau? Donne un prix.
2700 euros?
Non. Non, le livre n'est pas ça, il dit c'est plus.
Moins.
C'est plus. Thibaut.
2900 euros.
Attends, c'est aux autres
retourne,
de parler maintenant.
Retourne.
Attends à toi.
Ah merde,
pardon. Vas-y.
3500 euros.
C'est plus.
Je précise la règle, je te prie, quand t'es au-dessus, t'es éliminé. Hein. Ouais. D'accord. Hein. Faut être soit en dessous ou plus proche.
D'accord, à toi, Nico.
T'as dit combien?
3500.
3500, c'est plus.
4100 euros.
C'est plus. À toi.
4500 euros.
Guillaume.
4500.
4500, c'est plus.
Ça va durer deux heures, les gars.
C'est non, non, c'est bon.
4800 euros.
C'est gagné.
Voilà, merci.
Voilà. Bon, après la pub, au tyrolien, dans juste prix et au mini-golf. Bon, Guillaume, si tu avais trouvé le bon prix, on t'aurait envoyé le manteau. Daniel, tu l'aurais payé.
Envoyez-moi juste la copie, ça m'ira très bien déjà.
T'as raison.
Honnêtement, je pense que si on te l'envoie, je pense que tu le portes et on te fait des compliments.
Ah, mais avec plaisir. Et je suis sûr que j'ai même le droit de porter des lunettes à l'intérieur d'un château.
Ouais, si tu veux.
C'est sûr.
Merci Guillaume. Très bonne soirée à toi.
Bonne allez les gars,
dans un instant, Julien Laurent sera avec nous. Car depuis 1h45, les dossiers sont déposés. Ça y est, la deadline est passée pour le rachat de Manchester United. L'after, Thibault Leplat, Daniel Riolo. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Thibault Leplat, avec Daniel Riolo également, et donc Julien Laurence qui nous rejoint. Salut Julien. J'ai pas entendu Julien, es-tu là Julien?
J'aurais bien aimé entendre.
Salut Nico, salut à tous.
Entendre Julien sur le manteau.
Alors justement,
Julien doit avoir un manteau
parce que Julien lui ne se trompera pas.
Voilà,
écoutez bien ce que c'est que quelqu'un qui connaît ce genre de choses.
Attends, resitue quand même de quoi on
bien
parle.
Sûr, Julien Laurence, manteau de Mbappé quand il est arrivé à Clairefontaine. Donc je te donne, c'est manteau Dior, drap de cachemire, manteau classique, bleu marine. Envoie le prix.
Je pense que c'est 2500 euros, je pense.
Non, mais tu vois. Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas à ces hauteurs-là.
Écoutez-moi. La doudoune Dior que Kylian porte parfois, elle vaut 2000 euros.
Oui, la doudoune. Mais je te parle du manteau, le drap de cachemire.
Oui, je pense que c'est...
Non.
C'est 4008. Ouais, voilà, désolé. Mais les lunettes de soleil, c'est le partenariat avec Oakley, hein. C'est pour ça qu'il entre avec les lunettes de soleil.
Ah, ça, combien de lunettes, contrat. Tu penses? On va regarder ça.
Oh, les lunettes, c'est là, je sais pas, mais c'est pour ça, hein.
C'est
parce que.
C'est 1005.
Oui, c'est contrat. Parce qu'il est sous contrat.
Les gars, vous êtes forts.
Exactement.
Je suis largué, ma.
En revanche, sans le manteau,
c'est magnifique. Les lunettes Oakley, le.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'étais un peu bas.
Sans le manteau, tu m'as vraiment déçu.
Vous avez des sons d'acteurs, les gars, c'est flippant, quand même.
J'espère que tes amis à l'île dorée t'ont pas écouté, sinon ils te laissent plus rentrer. Va-t'en, Manon.
Va au Léron.
Pour ça, j'y serai à Pâques. J'espère qu'ils me laisseront rentrer, mais à Pâques.
Julien, ça y est, donc les candidats au rachat de Manchester United ont déposé leur dossier. Ils avaient jusqu'à 22h. C'est bien ça?
C'est ça, effectivement. on attend à ce que ça atteigne les 5,6 milliards d'euros, qui est donc plus que ce que pour l'instant ont proposé sur Jim Radcliffe, déjà le propriétaire de Nice, et
qui a dit qu'il ne voulait pas mettre de l'argent de façon inconsidérée.
C'est stupide, voilà. Ces montants-là.
Ça veut dire qu'il ne veut pas racheter toutes les dettes.
C'est stupide de surpayer. Voilà. Ah. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne veut surtout pas surpayer. Ah, donc parce qu'on sait que les Glazers. On sait que les Glazers sont assez gourmands. D'ailleurs, je pense que le 5,6 milliards d'euros serait pas vraiment suffisant. En tout cas, pour certains des Glazers. Je vous rappelle, hein, les Glazers, c'est 5 frères et une sœur qui détiennent, donc, à eux, 69% de l'actionnariat de Manchester United. Ils avaient les 100%. Mais certains des frères et la sœur notamment ont vendu quelques actions par-ci, par-là, à droite comme s'ils avaient passé d'argent déjà, mais pour
gagner de l'argent.
Voilà, pour payer les vacances au reste de la famille. Donc, eux, ils ont 69%. Ineos voudrait racheter ces 69%-là. Alors que le cheikh Jassim de Qatari, lui, voudrait racheter les 100% du club. Donc, avoir.
Lui, c'est tout ou rien, quoi. Il veut tout, quoi.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et il y aurait aussi 6 autres acheteurs potentiels. Alors, certains qui voudraient qu'une part minoritaire de l'actionnariat, d'autres qui seraient prêts à s'associer, par exemple, avec Sir Jim Radcliffe pour créer donc un consortium ensemble et racheter peut-être les 100%, 69% donc pour Sir Jim Radcliffe et puis le reste avec d'autres partenaires. Donc voilà, ce sera assez intéressant. On sait toujours pas vraiment si les Glazers veulent vendre absolument ou pas. Ils chercheraient peut-être simplement, un autre actionnaire minoritaire. Ils pourraient juste voir ce que ça donne. Donc le montant des offres, et on sait qu'ils sont assez durs en affaires, et que peut-être que si le montant qu'ils voudraient, donc les 6 milliards de livres, donc qui fait à peu près 7 milliards et quelques d'euros, si ce montant-là n'est pas atteint, ils seraient peut-être prêts à ne pas vendre du tout.
D'accord. Cette prochaine étape, c'est quoi? On saura quand tout ça, Julien?
Donc là, c'est la banque new-yorkaise, donc le Rain Group, qui a récupéré toutes ces offres-là, et ils vont les transmettre à la famille Glazer, qui ensuite décidera. Ça pourra prendre un petit peu de temps. Je pense qu'il y aura un autre peut-être tour de discussion. On sait par exemple que donc vendredi dernier, Sir Jim Radcliffe était à Manchester. Il a visité le stade à Old Trafford. Il est allé à Old Trafford. Il est allé à Carrington au centre d'entraînement. Il a visiblement fait très bonne impression auprès des directeurs du club, des gens qui gèrent le club au jour le jour. Et puis la veille, le jeudi, donc c'était le cheikh Yassim, lui, n'était pas venu du Qatar. Il avait envoyé
un virement.
Son équipe. Il avait envoyé son équipe. On fait plutôt bonne impression, mais j'ai l'impression, enfin, de ce qu'on me raconte, c'est surtout Sir Jim Radcliffe, pardon, qui lui a fait vraiment, vraiment très belle impression.
Est-ce qu'on a eu vent de ce que pensent les supporters de tout ça?
Alors moi, des conversations que j'ai pu avoir, ou même sur les réseaux, les messages que je reçois, etc. On a vu aussi quelques reportages à la télévision notamment et dans les journaux. Sir Jim Radcliffe, il a l'avantage d'être de Manchester.
C'est pour ça que je te posais la question. Moi, je pensais un raz-de-marée, que ce soit un Anglais qui, en plus, soit.
Non, parce qu'il y a la position de Gary Neville qui est un peu bizarre, non? Moi, j'ai pas bien compris quelle est sa position.
C'est pas très clair non plus. C'est pas très clair non plus.
Ça veut dire qu'il il a pris un virement.
Lui. Ouais. Ouais,
c'est lui, il a déjà pris le chèque.
C'est pas clair dans un cas comme ça.
C'est qu'il a eu une montre.
Vas-y, Julien.
Non, il a pris le chèque de beIN Sport à la Coupe du Monde. Déjà. Donc, je pense que l'affiliation avec le Qatar, elle existe déjà chez Gary Neville.
Avec peut-être une promesse de poste.
Je sais pas si c'est une première de poste, mais voilà, ils ont déjà. Lui, qui est en général très virulent.
C'est un mec de Manchester qui peut prendre le club.
Je sais pas comment ça peut
là, c'est qu'il y a quelques. C'est qu'il y a. Oui, là.
Je pense que certains supporters se disent si c'est les Qataris, ça veut dire beaucoup plus de dépenses à la Manchester City, à la PSG, que si c'est Sir Jim Radcliffe, où là peut-être que alors qu'il a une fortune, Ineos c'est quand même c'est un mastodonte. Mais je pense que dans l'imaginaire et dans la tête des supporters de Manchester United,
ils veulent du carnaval, quoi.
Qatari égal.
Ils voient pas ce que ça donne au PSG.
Ben, je pense qu'ils regardent plus du côté bleu de Manchester, en disant que là, ça fonctionne quand même mieux, même si eux aussi courent après la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est plus en place peut-être. Je pense qu'ils le voient comme ça. Après, sur Jim Radcliffe, ça peut être aussi très bien.
Un jour, il faudrait quand même dire que, bon, d'abord, c'est pas exactement les mêmes quand même, hein, ceux qui sont à City et ceux qui sont au PSG.
C'est même d'ailleurs les voisins d'en face.
Voilà,
Unis,
mais
donc,
bon, je veux bien qu'on fasse des raccourcis, c'est des gens du golf, c'est tous les mêmes et tout.
Non, les Émiratis d'un côté, les Qataris.
Au contraire, justement pour ça que les Qataris
on le dit pas, on met un peu dans le même sac. Bon, bref, voilà. Et il faudrait peut-être expliquer, ça c'est vrai qu'on le fait jamais, il y a Guardiola qui entraîne cette équipe, mais les gens qui sont derrière, il y a du lourd, hein, quand même. Il n'y a pas ça au PSG.
Ferran Soriano, l'équipe est garée, les meilleurs partout.
Attention au niveau des mecs qui sont derrière, on les cite jamais, ces mecs-là, mais au PSG, il n'y a pas. Nous ici, t'as le directeur du Celta Vigo, Christophe Galtier.
Plus cher qu'au Celta Vigo, parce que tu payes plus cher.
C'est tout, et ça va pas plus loin. Hein. C'est Sarkozy en tribune. Hein.
C'est vrai. Ouais, mais Kim Kardashian, elle vient au parc, elle va pas aller.
Soriano, quand il parle foot, tu vois, on est dans une autre dimension quand même. Hein.
Bon. C'est vrai. C'est vrai que c'était à l'arrivée de Ferran Soriano surtout et de Chiqui Pégarichène, ils se sont entourés des meilleurs dans chaque département. C'est très simple, hein, au niveau du marketing, au niveau du sponsoring, au niveau de tout ça. Ils sont allés chercher les meilleurs dans les clubs, dans les grands clubs européens, notamment à Barcelone aussi.
Il y a une particularité pour faire de la géopolitique rapide, c'est qu'entre la différence même culturelle entre Dubaï et le Qatar, c'est de Dubaï est devenu une place forte financière très importante.
Abu Dhabi,
c'est qu'il n'y a pas d'hydrocarbures et qu'on a un tout petit émirat qui a réussi à se développer, à avoir une puissance financière énorme sans avoir de gaz, alors que le Qatar en a du gaz. Donc c'est pas du tout la même logique d'investissement. À Abu Dhabi, l'idée, c'est un peu l'idée du City Group. On parlait tout à l'heure de club irrationnel. Là, City, pour le coup, c'est un club extrêmement rationnel, qui met les meilleurs partout, tu l'as dit Julien, qui s'installe sur chaque continent, sur chaque marché, qui développe un système de jeu, une certaine manière de jouer, qui ensuite, en cas de problème avec le fair play financier, met une armée d'avocats, une armée d'ingénierie juridique pour arriver à contourner. Alors que qu'est-ce que fait le Qatar? Bon bah il part en vacances avec ses ferries.
Je peux Nasser avait une armée d'avocats également
autant, parce qu'il
a fallu contester
moins,
les services financiers.
C'est beaucoup moins fin. Il achète directement, c'est beaucoup moins fin. Il préside l'ECA. C'est une autre stratégie qui est une stratégie qui est complètement sur la frime un peu. Et donc t'as vraiment un choc culturel entre les deux. Donc je suis pas certain qu'on puisse comparer en fait la manière dont l'argent est investi à City avec un club qui valait beaucoup moins au moment du rachat aussi qui était un investissement. Bon. Là c'est pas un investissement. Manchester United.
En tout cas, on va parler de multipropriété encore, hein, certainement. D'autant plus, Jim Ratcliffe rafle la mise à United.
Surtout là. Je pense que les supporters de Nice peuvent être trinqués. Hein.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'on fera pendant la trêve là une vraie émission sur la multipropriété, expliquant les conséquences, les causes des conséquences également, comment ça pourrait changer le paysage footballistique européen en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr.
Du côté Nice, on rassure, on dit il habite à Monaco, il a pas prévu de partir, personne n'est vraiment inquiet.
Mais non, mais ce sera une succursale, voilà, c'est tout.
Les gens qui sont un peu inquiets, c'est comme les supporters. C'est-à-dire dès que tu fais un résultat en Coupe d'Europe, le lendemain, ton président va se promener à Manchester et fait des tweets sur Manchester United. Ça passe un peu mal, quand même. Voilà.
Bon. Juste pour finir, Julien. Parce que Thibaut vient parler des avocats de Manchester City, parce que c'est marrant. Dans le cas donc de toutes des sanctions qu'ils peuvent avoir par rapport à la Première Ligue pour avoir enfreint toutes les règles qu'ils pourraient avoir enfreint, leur avocat principal, donc Lord Panic, c'est 6000 euros l'heure. Donc voilà, 6000 euros l'heure. Il va gagner autant d'argent que Kevin De Bruyne, par exemple, qui gagne donc près de 400 000 euros par
semaine. Ces honoraires, c'est ouf.
Bah, c'est un manteau, quoi.
C'est le meilleur. C'est un manteau, genre.
Il se paye le manteau et
un manteau TTC, quoi.
Et une cravate.
Ouais. C'est l'avocat de Boris Johnson, par exemple, dans la fameuse histoire de Partygate en ce moment. C'est le meilleur. On dit que c'est le meilleur avocat de tout le pays. Donc c'est 6000 euros de l'heure. Donc Daniel, si un jour t'en as besoin, tu me dis, j'ai son numéro. Donc
10 minutes. Daniel, on va avoir 10 minutes.
Ah, moi, si tu peux pas accepter de le faire en 30 secondes.
Daniel, j'ai trouvé le meilleur avocat en France, celui qui lui a permis de revenir sur Twitter quand même. C'est fort. Quand même. Voilà pour City. Tiens, Julien, tu l'avais annoncé, pressenti hier. Un homme de 75 ans va reprendre du service en première ligue, Roy Hodgson.
Oh non, mais c'est pas, c'est quoi
ça? Revient à Crystal Palace.
Sans déconner.
Il rodait un peu à Ineos.
75 ans, écoute, voilà.
Il rodait incroyable. Un peu, et puis finalement, ouais. C'est Crystal Palace.
Il est déjà passé, hein, il a fait 4 ans là-bas. Déjà.
Ouais, 4 ans, ouais.
Il a toujours le blazer bleu marine est prêt?
Toujours, le même qu'il y a 20 ans. Enfin, voilà. Ouais, alors, sens. C'est marrant, j'ai regardé, donc. Il a commencé sa carrière d'entraîneur. 7 entraîneurs actuels de première ligne n'étaient pas nés. Donc c'est quand même incroyable. Donc le gars, il a plus entraîné dans sa vie que certains entraîneurs actuels de première ligue qu'il va rencontrer ont vécu. Donc c'est hallucinant. Voilà, il y a des records incroyables. 75 ans entraîneur. Alors si Raymond Domenech était en charge de l'association, de
l'UNECA. Ah oui, t'as raison, les pèterait un plomb.
Alors là, je pense qu'il deviendrait fou. 75 ans, effectivement. Certains disent que c'est bien parce qu'il a encore l'énergie et tout. Moi, je trouve que c'est aberrant. Voilà, je comprends pas très bien, mais on verra bien.
Hein, c'est pour gagner du temps, pour préparer la saison prochaine aussi.
Mais bon.
Sachez également qu'Emmanuel Adebayor, oui, t'es encore un joueur de foot. Il a tiré un trait officiellement aujourd'hui. Il a annoncé fin de carrière, hein, lui. Monaco, Arsenal, City, L'Oréal, Tottenham. Voilà, il a fini dans un club paraguayen. Vous retenez quoi en deux mots, Adebayor? Ça aurait pu être mieux encore, plus fort.
Ouais, je me souviens de son arrivée au Real, qui était assez rocambolesque. Il était surnommé Manolito. C'était, moi, j'en ai pas gardé un immense souvenir.
Hein. D'accord. Le problème, c'est que quand tu dis encore plus fort, vu la vie privée qu'il avait, c'était compliqué pour lui d'aller plus loin.
Julien, un mot. Il est passé chez toi quelques années.
Ce but avec Manchester City, notamment, de la tête, si vous vous rappelez, à l'Etihad, où ensuite il court tout le terrain, il traverse tout le terrain, puisqu'il avait marqué du côté où en face de là où les supporters d'Arsenal étaient, dans l'autre virage. Et donc il court toute la longueur du terrain pour aller faire sa célébration, glisser sur les genoux, en face donc des supporters d'Arsenal après avoir quitté le club. Donc voilà, je pense que c'est l'image que beaucoup de gens ici en Angleterre auront retenu.
Merci Julien, merci beaucoup. On te retrouve très vite sur RMC. C'est terminé les gars pour ce soir. Rendez-vous demain. 1h sur l'Olympique de Marseille demain au programme notamment. Merci Thibaut, merci Daniel. Bonne soirée à tous. L'After, je vous rappelle que les podcast clubs sont en ligne déjà à Lyon, Marseille, Paris. Vous pouvez les télécharger. Bonne soirée à tous. Bye bye.
RMC, l'After Foot.